Non.
Qui ont sorti tout un pavé, justement,
d'éducation.
Tout ce qui est développé dans les projets, c'est une question complète.
Ah oui, ah, c'est intéressant ça. D'accord. Après qu'on arrive à rassembler toutes ces infos qu'on a tous.
La valeur qu'on va faire, c'est les chaussures de marche.
On va comme ça va, hein.
C'est, ça y va.
Ouais, c'est pas une grande balade et puis c'est pas du tout terrain non plus.
Oui voilà.
Non, ça va. Ouais. Ouais. Même s'il pleut pas d'ici là.
Ouais, faut pas ça brouillasse quoi.
Ouais. Ouais, je fais une balade, ouais. Ça va aller si ça monte un peu? Ça va aller si ça monte un peu?
Ça va aller?
Ouais.
Bien sûr,
ouais.
Pourquoi?
Bon, je sais pas.
Pourquoi?
Votre canne, elle tient le coup.
Non, non, non.
C'est bon. La frime.
Non, mais bon, c'est juste, ça me tient d'équilibre.
Non, non, mais...
Oh, ben non, mais autrement.
Faut savoir, hein.
On travaille tous les jours.
Ouais. Un jardin. Oh, super.
C'est défoncé. J'ai une petite pelle qui est un peu comme ça, sauf qu'elle est sur eux. J'ai une griffe au bout, mais j'ai tout griffé.
Ah oui.
C'est une bonne opération.
Bah maintenant. Ah, combien de temps? Bah, une demi-heure, trois quarts d'heure, quoi.
C'est loin?
Non,
non, c'est pas très loin.
15
km. Faut prendre des notes.
On peut? On peut? Non, non, non. On est à trois quarts d'heure, allez.
Trois quarts d'heure, je pense. Ok, merci.
Ah non, c'est pas moi, ça. Hein. Encore un petit coup quand même parce que.
Ouais, t'as pas besoin de ton matin là pour avoir parlé au camp.
Ah, t'as vu, j'étais tout desséché. Par monter. Alors ce qu'on va aller voir ce qu'on va aller voir, c'est en fait l'évolution d'un terrain laissé à lui-même, comment il devient. Il y a deux exemples de terrain là-haut qui sont en train de progresser vers la forêt quoi. Puis si on voit des petites plantes, ce sera bien aussi. Il manque quelqu'un là, Martine. Il manque monsieur avec la canne.
Il est parti
en suite.
Ah.
C'est la
ça y est, pédalo.
On va faire le haut, hein, tant qu'il pleut pas, puis après on va voir. Bah, je crois. Quoi, l'hiver, oui. C'est bien le jour, quoi.
C'est
terriblement qu'il va dire. On le voit ?
Ça va nous réchauffer.
Ah non, on va voir le, on va voir les plantes, on va voir l'évolution d'un, d'un terrain vers, vers la forêt. À partir du moment où on laisse à l'abandon, qu'est-ce qui se passe ? Comment les différentes phases. Et puis si on trouve des petites plantes comestibles aussi, ben, on en parlera un peu. Ah oui. Ah, il est déserté comme ça. C'est bizarre.
Non, et encore il s'est repeuplé avec des néo-ruraux. Je crois qu'à l'époque après-guerre, il va y avoir. Non, bah oui, mais faire un massage.
Donc voilà le seul terrain qui est en friche du coin.
Le seul sur Marcoing.
Oh. Non, pas le seul, mais il n'y en a pas beaucoup. Non, mais des friches comme ça qui sont jeunes, en fait, récentes. Martine a eu du mal à en trouver. Ah oui, c'est
les rangs.
C'est des les plantes pionnières.
Attention, c'est pas sur la culture. Où est-ce qu'on peut trouver des vieilles pierres pour faire des murs à l'ancienne ? Si vous avez une adresse.
Ah, j'ai pas d'adresse.
Il faut des choses, des imitations maintenant.
J'ai peut-être vu un endroit où il y a des tas de pierres, non ?
Pas de fournisseur de pierres.
Je connais pas.
fouillé un autre.
Faites attention en descendant. Un arôme, sauvage. Ah non, ça c'est pas bon. Non. Moi c'est aussi, je goûte tout, mais bon, des fois j'ai des surprises. Non, l'arôme c'est pas bon. Le tubercule peut être, en étant bouilli plusieurs fois, un peu comme les glands, ça peut être mangeable, ça peut devenir comestible. En cas de famine, c'est pas.
Désespéré là.
Et après les cordes de chaîne.
Ah, ça fait un peu peut-être avant quand même. Vous venez par ici, Martine? Vous venez par là? Ah ouais, quoi, vous bouffez des arômes vous aussi?
Oui, voilà.
Ah, c'est bien.
Il y en a qui a fait le test. Tu m'as pas fait celui-là.
Non, j'oserais pas.
D'accord. Et puis il y en a partout. Hein.
Mais c'est l'arôme là qu'il a goûté.
Oui.
Ah oui, d'accord. Ah non, mais attendez, essayez pas.
Ils sont comme ça, ils blancs. Il y en a pas qui sont comme ça,
les bariolés
blancs.
Il y en a qui font 3 mètres de haut. Il y a plein de variétés. Alors, pourquoi je vous ai amené ici? Je vous ai amené ici parce que en permaculture, en fait, on dit observer. Mais on observe quoi? On essaie d'observer la nature telle qu'elle est, telle qu'elle fonctionne. Or la nature, quand on laisse un terrain à l'abandon, elle n'a pas vocation à être une prairie, sauf dans des zones très sèches où il n'y a que l'herbe qui peut réussir à tenir, mais sinon ça évolue vers la forêt systématiquement tout seul. Et en permaculture, ben, ce qu'on essaye en gros, il y a un mouvement d'ensemble qui est d'aller vers la forêt. En agriculture classique, enfin industrielle, ils essayent d'aller vers je sais pas quoi, le laboratoire avec la paillasse de laboratoire où la terre est plus qu'un substrat. Et en permaculture, on essaye de maintenir un peu la forêt dans un, enfin de l'empêcher de partir trop vers la forêt quoi. On essaye de maintenir un équilibre, donc on est toujours un peu en train de tendre un élastique quand même. Donc ce qui explique qu'on est obligé de fournir un certain travail à des moments pour ramener la nature dans ce qu'on recherche et pas là où elle veut aller de façon complètement naturelle. Mais bon, le but c'est que cette intervention elle soit le minimum possible. Et je veux aucun blessé. Hein. Là je serais très ferme là-dessus. Ça
n'empêche pas les taux.
Ça n'empêche pas les taux. Alors, du coup, ben, voilà, qu'est-ce qu'on trouve ici? On va voir deux terrains comme ça. Un terrain voilà, qui est peut-être laissé à l'abandon depuis 2-3 ans. Je la taille des arbres, peut-être un peu plus. 3 ans et demi. 2 décennies, non. Ce serait plus grand que ça. Ça a été quand même refauché ou ça a été... Enfin bon, là on va dire qu'on est sur ici sur du 2 ans, 2-3 ans. Et après, on Et il fait bien, il ne parlait pas ce coup-ci. plus haut, on va voir une végétation qui est celle-ci, avec plusieurs années d'écart. Donc en fait, là on a de l'herbe, donc l'herbe prend un maximum d'eau, donc elle empêche tout un tas de plantes, de graines qui sont là dans le sol, parce que bon, sur un centimètre carré, il y a une grosse quantité de graines, de démarrer. Donc il y en a quelques-uns qui finissent par y arriver, puis surtout des ronces. Et donc le cheminement, c'est à partir de l'herbe, c'est ronces. Les ronces se mettent à couvrir un peu l'herbe, donc elles la font un petit peu crever, permettent de faire pousser des arbres, des plantes pionnières un petit peu plus, qui ont une stature un peu plus grande quand elles sont adultes. Bon, là ça doit être du prunier sauvage ou du prunelier, c'est pas trop bien. Et en allant à terme après vers des arbres plus grands. Donc au départ on a les plantes pionnières, elles qui savent pousser en pleine lumière, en plein soleil comme ici, quasiment en plein soleil, quelques arbres mais pas vraiment beaucoup. Et puis après on va avoir des plantes de plus en plus grandes, des chênes, des hêtres, qui mettent les autres dans l'ombre et qui font que elles tombent soit elles meurent, soit comme les ronces, elles restent en dormance, et puis elles attendent la prochaine chute d'arbres pour repartir. Voilà. Après, si on laisse faire comme ça un terrain, ça veut dire qu'on a tout un tas de sauvageons qui vont pousser d'eux-mêmes à greffer. Qui peuvent être greffés. Donc ça peut avoir un intérêt. Voilà, si tu as besoin de passer ici, par exemple, d'avoir un chemin ou je sais pas, tu les enlèves, mais.
Non, mais.
Ou des rejets, oui. Ouais. Ou, de toute façon, oui, les deux, quoi. Les deux, de toute façon, peuvent être utiles pour être greffés, mais on n'est pas obligé de tout garder non plus. C'est sûr qu'après, on fait un choix. Après, on fait un design, et puis justement, en fonction du design, cet arbre-là, il est là. Donc, c'est une ressource. Donc est-ce qu'on l'utilise, est-ce qu'on l'utilise pas, est-ce qu'on veut l'enlever?
On
Oui, mais ça dépend. Voilà. Bon, je parlais pas. Enfin, les arbres qui sont là, s'ils n'étaient pas là, mon explication, elle était valable aussi. Tu vois, c'est pas pour dire on va faire le design ici, c'est de dire voilà l'évolution d'un terrain de la prairie vers la forêt.
Une étape. Je pense que c'était plutôt un verger, non? Ou peut-être qu'il y avait des gens qui n'avaient jamais connu cultiver. Alors, cultiver, si c'était cultiver en potager ou en quoi que ce soit, c'est très ancien. Mais il y a des arbres. Hein.
Alors,
il y a peut-être eu du bétail, ça m'a fait
des pruniers.
Oui, pruniers, prunelliers.
Il y a un cognacier à l'angle, là, si vous voulez, mais presque.
Il y a une petite colonie de taupes, là.
Après,
on en fait quoi des ronces?
Alors les ronces, justement, j'allais y venir. Merci pour cette question. Question intéressante. Les ronces. Alors certains permaculteurs qui sont partisans de travailler le moins possible le sol. Balance des noyaux ou des boules de graines. Alors bon, je ne sais pas si vous connaissez les boules de graines dans les ronces, des graines d'arbres, hein, bien sûr. Et donc l'idée, c'est que c'est
sous nos climats,
il y en a qui le font. Ouais. Je dis pas que le résultat est. Enfin, à mon avis, il faut beaucoup de boules de graines pour arriver à un résultat. Mais en même temps, bon, tu creuses pas, tu protèges pas les arbres. Voilà, c'est un essai à faire là où vous êtes. Moi je connais un essai comme ça qui a été fait dans le Jura. Je sais pas, il y a peut-être un arbre sur 20 qui a poussé, mais bon. Voilà. C'est une technique quoi. Et lui il avait des ronciers, il a 20 hectares, donc il peut pas tout entretenir. Donc il avait des endroits avec des grandes quantités de ronces. Bon, ils ont balancé des. Hein, alors les boules de graines, que j'en parle tant qu'on y est. Les boules de graines, c'est de l'argile, c'est des graines, de l'argile et du compost. Donc on met les graines dans le compost, on enrobe d'argile, on laisse sécher, on balance ça. Quand il pleut, l'eau pénètre un peu l'argile, voilà, ça fait germer la graine. Maintenant, ou une fois qu'il y a eu gel pour les problèmes de levée de dormance, elle germe à un moment et elle est déjà dans le compost, donc elle a à manger. Donc elle peut faire déjà un peu ses racines, une petite plantule, et puis après, il faut qu'elle trouve le sol rapidement, quoi. Alors, celles qu'on met dans les ronces, c'est des graines d'arbres. Donc, parce que le but.
C'est ou la graine extraite de son
noyau ? Non, c'est le noyau en principe. C'est le noyau, mais après, bon, avoir les conditions de dormance. Voilà. Bah, stratification ou pas. Enfin, je veux dire, si tu fais ça, tu feras pas de stratification à froid comme on peut faire. Oui, un temps de.
J'ai pas compris la différence entre dormance et stratification.
Non, mais. La stratification, c'est une technique de levée de dormance en fait.
C'est surtout aussi pour dissoudre les tégiments très très durs qui sont
quand on met au gel.
Oui, mais c'est ça. Voilà. La levée de dormance, c'est ça, puisqu'en fait, la dormance, elle est là parce que la graine, elle est enrobée justement par quelque chose de protecteur.
La dormance, c'est le germe qui.
Oui, mais le germe, il germera quoi qu'il en soit. Si, je veux dire, si on enlève la pellicule extérieure, dans la plupart des graines, c'est la pellicule extérieure qui fait qu'il y a une dormance en fait, qu'il y a une non-levée de la graine spontanément dès qu'on la met dans la flotte. Et après, suivant les types de plantes, les types de graines, il y a plein de façons de lever sa dormance. Et donc la stratification à froid, moi je l'ai fait pour des pruniers et des cerisiers. On met un paquet de noyaux avec, pourquoi on dit stratification, parce qu'on met des strates. On met du sable humide. Des noyaux, du sable, des noyaux, du sable, etc. Et on laisse ça, tout ça à l'humidité dehors. Ou dans un congélateur, si on. J'en connais qui font congélateur. Au printemps, on a des plantules qui débarquent. Mais parce que leur procédé de levée de dormance a été respecté.
À quoi ça sert les stratifications?
Le fait de mettre en strat, c'est pour en mettre plus dans un volume, quoi. C'est juste. Voilà, c'est ça. Si on fait ça en été. Tu mets du sable, mais t'es pas obligé de mettre des strates. Enfin, ça dépend. Après, le problème, c'est. Voilà, c'est ça. Ouais. Ouais,
c'est dans du coton, c'est pas.
J'ai pas essayé, faut essayer. Mais.
Non, mais je veux dire, le fait que ce soit du sable, ça a bien.
Peut-être l'humidité, elle reste dans les petits alvéoles.
Ouais. Disons, le sable, c'est bien adapté, le coton, c'est plus cher, donc j'aurais pas l'idée de faire dans du coton, mais c'est vrai que. Voilà, ouais. Ça.
Ça élimine les ronces alors, les boules de.
Alors, tout de suite non, à terme oui. Au départ, on se sert en fait de la ronce comme protecteur de l'arbre qui va pousser dedans, quand on utilise ces techniques-là. Parce que si on plante un arbre ici avec les chevreuils, etc., bon, dans le village peut-être il n'y en a pas trop, mais. Ils adorent. Oui, mais ils mangent aussi les écorces des arbres. Ils mangent les écorces des arbres. Mais ils mangent les feuilles, mais ils ne vont pas rentrer dans là où il y a les piquants. Donc du coup, ça évite de mettre planter des arbres et de mettre une protection autour des arbres. Quoi. C'est une autre technique, hein, c'est juste ce qu'on a fait à Messigny, on n'a pas fait ça. Hein, ça marche.
En fait, les ronces, c'est l'ombre de l'arbre, tu vas les tuer à la longue.
Voilà, c'est ça. C'est ça. On va voir. Enfin, au-dessus, il me semble qu'il en reste encore des ronces, hein, parce que c'est pas encore assez dense, mais il y a tout là.
Dans les forêts qui sont exploitées pour le bois, souvent ça devient des ronciers, une fois que la coupe a été faite.
C'est la lumière.
C'est ça.
Et plus, quand la futaie commence à s'épaissir, les ronces disparaissent.
Ouais.
Mais là, tu es sur 50 ans.
Oui, c'est 100 ans.
On va peut-être pas, non, non, ça va plus vite que ça. Il y a une expérience comme ça, c'est... Il y a Steve et Yvonne Page qui ont fait une expérience comme ça chez eux, dans le Limousin par là. Et ils ont laissé, eux ils veulent faire du bois de chauffage, donc ils ont laissé une parcelle qu'ils n'ont pas touchée depuis 15 ans, une autre depuis 10 ans, une autre depuis 5 ans, une autre depuis là. Donc tous les 5 ans ils laissent une parcelle un peu libre comme ça. Et entre 10 ans et 15 ans ils n'ont plus de ronces. C'est-à-dire dans un cas ils sont comme ça, ronceraient. Après on peut cueillir des murs aussi sur les ronces. C'est...
Ouais, en fauchant, ça c'est bien les ronces. Hein. Moi, j'en ai
en fauchant
ah ouais, ça, ouais. Ça résiste pas
à
ces frais.
Ouais.
Faut les faucher au ras du,
ouais.
du truc, ouais, ouais, ça repousse pas bien.
Hein. Ouais, ouais, ouais. Ah, ouais. Ouais. Moi j'ai fait ça aussi. Ouais. Mm-hmm. Ça repousse faiblard, quoi. Donc 2-3 fois c'est bon. Non, mais c'est pas une technique, je suis pas en train de décrire une technique pour enlever les ronces. C'est ce que je suis en train de dire, c'est l'évolution. Voilà, pour utiliser les ronces, si on en a beaucoup et qu'on n'a pas envie de les virer, de faire. Il y a plusieurs façons de faire. Bon, on peut vouloir planter des arbres, les protéger, etc. Et puis on peut vouloir aussi se dire, ben, on va laisser un maximum la nature faire. Sachant que c'est plus aléatoire aussi et que c'est de l'expérimentation.
C'est intéressant parce que moi j'aurais eu tendance à croire que là où il y avait un roncier, rien ne pouvait s'établir.
Bah c'est, voilà, c'est...
Après que
c'est
le roncier est établi, je veux dire qu'un roncier qui pousse sous une futaie parce qu'on a abattu les arbres, ça se comprend. Mais un roncier, je pensais que rien ne pouvait surgir. Hein,
tu vois toujours des choses qui dépassent.
Il n'aurait pas poussé d'arbres quand même.
Oh, tu vois toujours dans les ronciers, tu vois toujours des arbres qui poussent, qui démarrent.
Ça finit par arriver.
Ils sont protégés de toute façon. Donc,
ils n'aiment pas l'ombre, hein, ils n'aiment pas la lumière.
Ils n'aiment pas la lumière.
Ils sont en sécurité sous les grands. Ils aiment bien ça, ils sont en sécurité.
Les
herbes de Auger, la plupart, le chêne, les
haies. Oui, on les découvre.
C'est des essences de pleine lumière. Moi, la plupart, ils ne sont pas pleines lumière. Ils aiment plutôt l'ombre et sa lumière.
Même en petit, c'est pas rare. Même en petit.
Alors dans l'évolution de la forêt, on devance un peu, c'est un petit peu comme si on était là-haut, mais on va y aller. Quand les arbres poussent, au départ on a des espèces pionnières qui viennent, et puis après on a des espèces climatiques, le hêtre, le chêne, qui vont dépasser celles-là et qui vont finir par les faire mourir, quoi. Faire mourir les frênes, les robinies acacia, les trucs comme ça. Ce dont on s'est rendu compte, c'est que ce sont les espèces qui tiennent le mieux l'ombre qui sont capables d'aller prendre la place des autres, en fait. Du coup, de se retrouver au soleil, hein, au bout du compte. C'est quand ils sont adultes. Voilà. Mais au départ, le chêne là-dedans, il est content, quoi. Le chêne, le hêtre, ouais.
Les chênes, c'est pas ce qu'on voit de plus dans les premières pousses d'arbres, comme ça, dans les pousses. Quand des chênes, il n'y en a pas loin. On pourrait aussi mettre ce nœud-là, jusque-là, mais non. Et puis il y a des jets, des machins qui vont bien perdre dans un temps ce qu'il faut. C'est rare qu'on voit qu'il y a un chêne qui pousse spontanément dans les jardins.
Ben, ça va pas loin aussi, le gland, je veux dire.
Non, mais il y a des oiseaux qui le transportent.
Tombe au pied du truc, ouais, ouais, voilà, il faut avoir ça.
Il y a beaucoup d'oiseaux qui le font.
Il soit à l'abri de la lumière au départ. Ça progresse tout doucement en fonction de l'évolution.
C'est vrai, je
ne
me rendais pas compte qu'il fallait qu'il soit à l'abri de la lumière au départ.
Surtout pas.
Alors que c'est pas le cas de ces espèces qui sont là, quoi.
Dans la forêt, mais pas.
Quand on veut régénérer une forêt, on est obligé de laisser des gros ensemenciers. Oui, mais c'est des fous. Si les forestiers ils gèrent la quantité de lumière, s'ils gèrent une quantité de lumière pour permettre la régénération, sans qu'il y ait trop ni moins.
On va voir au-dessus.
Ah bah si,
non mais...
Non mais il y a les mêmes dans mon jardin. Là.
Ouais mais c'est vrai que tant qu'on est là, qu'est-ce qu'on avait vu de beau
là,
ce matin?
J'ai trouvé de l'oseille finalement, parce que ça ce matin je me demandais ce que c'était, mais c'est bien de l'oseille.
C'est de l'oseille
ouais, c'est de l'oseille.
Ok.
Le petit oiseille, le long de cette
C'est de l'oseille
ou du Rimex, non, mais c'est,
il y en a du Rimex,
c'est,
mais
ça a l'air petit pour du Rimex aussi. Dedans,
mais... Il y en a, c'est pas la même feuille, il est un peu gonflé le Rimex. Mais c'est la même feuille.
Je vais quand même tester parce que.
Prends-en un tout petit bout.
Non, mais j'ai pas tout faire. J'ai essayé de m'en mordre.
La langue de pique.
Ah, super. Super. Qu'est-ce qu'on a de beau? On a un peu de gaillet ici. Ouais, c'est les pentes qui collent, ouais, ça c'est du gaillet gratron. C'est plein de silice, comme là. Oh, j'y arrive. Comme j'ai plus le nom de la plante. Enfin, c'est plein de silice. De là. Ah, il est violette. Violette, c'est comestible aussi.
Oui.
Dans les salades.
Ça fait plus de couleur.
Pissenlit. Comestible. Des coucous ce matin, mais soit c'est là les feuilles de coucou, ça.
Oui, ça y est, sont sortis. J'en ai vu des fleuris ce matin, moi, sur un feuille.
Ah, ouais.
Ah oui,
c'est bon. Non, il n'y en a pas.
C'est terrible.
Il n'y a pas un signe en permaculture pour...
Un signe pour dire venez. Oh, je crois qu'il faut essayer de digérer tranquille. Oui.
C'est ça, cette notion de temps aussi. Hein. C'est très important.
Oui, bah.
Enfin, qui, moi, m'apparaît très importante.
Disons, on est dans une société qui court, alors ouais, entraîné par le mouvement, quoi.
Ouais, juste arriver à laisser le mouvement tranquille.
Ouais, oui, non, c'est vrai.
Pour être à Paris, pour être, avoir vécu à Paris, la différence, elle est impressionnante.
Oui.
Il y a d'autres grandes villes, c'est encore pire, le Japon, les villes d'Asie, où ça court, mais
comme des fous.
Ça fait du bien de me faire une envie de marcher, quoi.
C'est sûr.
Juste passe le dire.
Et t'habites ici, là, dans le coin ?
Non, non, moi, je suis... Je disais, j'ai fait 30 ans à Paris. Je suis né à Paris et je suis parti en juin dernier, après beaucoup de difficultés à partir, quoi.
Ah oui.
Quand on vit dans la vie, on en a tout le monde et c'est dur. Intérieurement, c'est dur. Et puis là, le pas est fait et c'est du bonheur, quoi.
Et là, maintenant, t'habites...
Je suis dans la vallée de l'Eure.
D'accord.
À une centaine de kilomètres au nord-ouest de Paris.
Ok. Donc je peux encore y aller de temps en temps, quoi.
Bah pour l'instant j'y travaille encore, malheureusement. Mais c'est en cours de transition.
De résolution.
C'est long, hein, ça prend mon temps aussi, parce que quand c'est trop violent, c'est un peu dur, mais des fois il faut se faire violence soi-même, ouais, c'est clair. Mais ça met du temps, ouais. Ça met du temps. Mais c'est vrai que toute ma famille est sur Paris, tous mes amis sont sur Paris, mais je rencontre plein d'autres gens qui sont extraordinaires aussi. Donc c'est beaucoup de... Oui. Déjà pas avoir
encore un peu.
Ouais. Encore plus loin. Ouais, tu vis pas. Comme le coin du sud.
Marseille.
Ouais.
Tiens, ouais. On peut peut-être s'arrêter là.
C'est pas mal. Sortir de sa zone de confort,
tout à fait. Ouais, mais dis-toi, en haut, c'est le terrain. Ouais. Ouais. Il commence par ici.
Voilà. Plantin ?
Non, c'est le compagnon blanc.
C'est pas tout à fait. Oui, parce qu'il y en a du. Dans le plantain, il y a des feuilles plus larges.
Ouais, du lancéolé et puis du.
Puis là, j'avais déjà fait.
Que ça se mange, ouais.
Ouais.
Oh oui, ça se mange, oui.
Alors.
Toi aussi, tu t'es amouté.
Alors là, on se retrouve dans le terrain, un peu plus avancé, quelques années de plus, quoi, quelques. Voilà. Pas exactement chiffré, mais à mon avis, il n'y a pas 10 ans, hein, entre les deux. Les ronces, on a des restes de ronces. Oh, si ça remarche. Donc je disais là, on est sur un terrain, un peu l'étape d'après. On a déjà des pionniers, des frênes, tout un tas de choses qui ont commencé à pousser. Les ronces, elles sont pratiquement sèches là dans les bois, dans le sous-bois là. Elles sont moins actives qu'on est là-haut. Elles recherchent la lumière, le peu qu'il y a vers l'avant, ils essaient de monter encore. Et l'étape d'après, c'est une forêt bien propre, 5 ans après. S'il n'y avait pas le chemin, parce que là, le chemin, il ramène de la lumière. Mais c'est une forêt bien propre, avec des bouts de ronces cassés, des trucs... voilà. Et derrière, effectivement, après, on a les chênes, les hêtres, qui vont prendre le dessus, qui sont peut-être déjà dans ce qu'on a vu tout à l'heure, qui sont certainement déjà là aussi, et puis qu'on va voir dépasser à un moment, dépasser tout le monde. Et puis faire de l'ombre à tout le monde et faire mourir les pionniers qu'on voit là aujourd'hui, qui sont les plus courants. Alors après, en Europe, on a du mal à trouver, pour les observations, on a du mal à trouver une forêt primaire vraiment tel que puisqu'il n'y en a plus quoi. Enfin il y en a en Pologne. Faut aller un peu loin quoi. C'est ça.
Donc, et qu'est-ce qu'il y a de différent? Est-ce qu'il y a une différence avec ce qu'on observe dans les forêts non enfin,
alors, je sais pas si tu es déjà allé dans une forêt déjà où tu as des vieux arbres, des très gros arbres. Des très gros vieux arbres. Au niveau atmosphère, ça n'a rien à voir. Enfin, sans aller jusqu'à plusieurs milliers d'années. Moi, je suis dans le Jura, dans des endroits où il y a plusieurs centaines d'années. C'est paisible. On se croirait dans une cathédrale, quoi. Moi, je trouve ça... Darnay, c'est où?
Dans les Vosges.
Ah oui.
Puis tu as des arbres morts. Aussi pas mal.
Beaucoup de
hêtres. Qui sont importants aussi pour l'équilibre.
Ouais. Là, et on n'en avait pas trop dans cette forêt-là. Enfin, je pense que ceux qui étaient tombés, ils étaient vraiment en phase de décomposition assez avancée. Mais ouais, mais ces gros-là, on n'en a pas vu par terre, donc c'était c'est impressionnant. Hein. Voilà.
Ah ouais. Vous voulez qu'on aille un petit peu plus loin parce que je t'ai pas amené à
vous. Bah vas-y, s'il y a des choses à voir sympa.
On avance quand il est 3h30, peut-être redescendre.
Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez vous? On continue un petit peu la balade encore ou est-ce qu'on redescend boulot ou.
Ce que tu voulais montrer, tu l'as montré là.
Ce que je voulais montrer, je l'ai montré.
Bon, bah,
les plantes comestibles, oui. Par contre, il n'y en a pas encore beaucoup. Donc là, on a le coucou qui est là. Ça, c'est du groseille des poules.
Ciboulette, là.
Ciboulette, cloc-cloc. Ciboulette, oui. Ciboulette.
De toute façon, on va faire le tour de mon jardin,
on peut ou on peut faire ça demain en fin un moment pour en pause.
Parce que les plantes, c'est pas qu'ils font les
mêmes. Ouais, on va. Alors, ça, c'est vrai que pour les c'est un peu tôt pour les plantes comestibles. Enfin, il y en a, mais on ne voit pas tout. Ouais, les violettes comestibles aussi. Les arômes qu'on a vus tout à l'heure, c'est pas comestible, mais en bouillant la racine, ça peut le devenir. C'est la tubercule. La ronce, feuille de ronce, c'est comestible. Voilà, un peu piquant. En plus. C'est pas mauvais hein, la feuille de ronce. En fait, il faut découper les selles milieu, découper juste l'extérieur. Il faut avoir un ciseau pratiquement. Quoi.
Mais il
n'y
a pas de
photos
dans son bouquin.
Ah oui. Ah oui. Bah, ou alors faut taper sur internet les noms des plantes et puis on retrouve tout quoi. Si c'est bien décrit, et puis s'il y a simplement le nom, c'est peut-être qu'il avait. Ah oui, oui, oui. Ouais, on trouve beaucoup de choses. Alors c'est une des choses que j'ai dit ce matin, c'est de l'utilisation d'internet et puis pour trouver les infos, les techniques. Parce que bon, moi ce que je donne c'est la méthode globale. Après je donne des techniques, mais je peux pas donner des techniques sur tout parce que je connais pas tout. Normal. Puisqu'en fait la permaculture passe son temps, enfin les permaculteurs passent son temps à utiliser des techniques qui sont reprises d'ailleurs, qui sont des anciennes techniques, qui sont. Bon voilà, donc c'est une masse de connaissances énorme.
Il y en a beaucoup des permaculteurs.
Oh ben là, je n'aurais pas donné un chiffre. Oui, on dit comme ça, permaculteur, ouais. agriculteurs. Ben, il commence à y en avoir de plus en plus quand même. Ouais. Ouais, il y a quelques années, lui au départ, c'est pas la permaculture, c'est pas là, par là qu'il est parti, c'est pas comme ça qu'il démarrait quoi. Mais bon, ça s'apparente beaucoup.
Plus recherché que ce qu'il fait, par exemple.
Je sais pas, non, enfin moi je mets pas de jugement de valeur, je veux dire, une des choses que j'ai dit ce matin, c'est que le design, c'est-à-dire la conception avec une méthode, avec les principes que je vous ai donné dans la feuille que vous avez sur votre ordinateur. Ouais, design dans le sens de conception, quoi. Mais c'est toujours le cas même dans l'industrie ou je sais pas quoi, mais sauf que on fait pas un design d'une cafetière comme un design d'un terrain, quoi, ou d'une habitation. Et c'est vraiment une partie. Enfin, s'il y a une chose qu'il faut retenir de la permaculture, pour moi, c'est ça, c'est la partie conception méthodique en fait d'un terrain. Donc ça, il suffirait en fait de reprendre le document que j'ai envoyé, de bien le regarder ce soir pour avoir tous les principes, y réfléchir. Bon, il n'y aura pas toutes les explications avec, mais après, dans la journée, ce que je vais en redonner, ça va permettre de raccrocher les wagons. Parce qu'après, les techniques, ça peut être aussi bien les mêmes techniques que Pierre Rabhi va utiliser, ou des techniques utilisées par les biodynamistes, ou des choses comme ça, quoi. Alors moi, bon, il y a des biodynamistes qui disent « Ah oui, mais la biodynamie, c'est mieux que la permaculture. » Oui, peut-être. Ou « La permaculture, c'est mieux que la biodynamie. » Oui, peut-être. Ça dépend pourquoi. Ça dépend ce qu'on veut faire. On peut utiliser, on peut faire une conception ou un design en permaculture et intégrer à l'intérieur des techniques de biodynamie.
Ça dépend de ce qu'on veut faire. Mais il faut prendre le meilleur dans chaque truc, comme en politique.
C'est ça.
Et aucun parti ne le fait, ça. Optimiser les machins, prendre le meilleur de chaque truc.
Ils ont du mal, ouais.
Dans le bâtiment, c'est pareil. Dans le bâtiment, c'est pareil. Le bâtiment idéal, écolo, pas cher, autonome.
Il y en a, hein.
Oui, mais c'est cher pour l'instant. Ce que proposent les firmes, c'est cher.
Ah oui. Les gens qui ont fait de la construction en paille, l'autoconstruction en paille, on s'en approche quand même.
Ah oui, mais une maison de paille, c'est pas parfait quand même. Hein.
Ah non,
mais. C'est un million.
Mais. Oui, non, mais sûrement. Une paille en dur. Il y en a qui ont fait une technique grèbe. J'en parlerai aussi de ça. Technique grèbe en paille avec des petites structures en bois qui est vraiment. C'est pas pour l'esthétique. Non, c'est pas pour l'esthétique, c'est pour tenir. Et puis c'est enduit des deux côtés. Avec des enduits qu'ils ont mis au point, c'est assez bien foutu comme système. Ce qui fait qu'on peut visser n'importe où. On peut suspendre quelque chose, parce qu'en fait l'enduit, il y a de la sueur dedans, il est souple, donc il est capable de porter, puis il est épais, 4 cm. Donc on peut visser n'importe où. Sable, c'est un mélange, sable chaud, ciment, il y a ces quatre composants.
Déjà t'as pratiqué, j'imagine.
faites ça? C'est des loisirs ou bien vous, c'est votre métier premier ou vous avez un autre métier?
Non, j'ai un autre métier. Et mais là, j'ai des demandes dans ce domaine-là. Et puis je suis en train d'en faire un deuxième métier. Quoi. Je travaille dans l'immobilier.
Ah bon?
Ouais.
Ça ressemble pas.
Non, ça n'a rien à voir. Moi, j'aime bien les métiers qui se ressemblent pas. Avant, j'ai fait de l'informatique aussi.
Transaction immobilière.
Oui, ouais. Ah bon, ouais. Non, c'est clair. On a perdu la patronne. Je préfère qu'on le fasse demain, comme ça fera une petite pause à un moment stratégique où tout le monde commence à bailler. Hop.
À digestion. Hop. Ouais, c'est bien. Oula.
Ah oui. On dit on a perdu la patronne. Essayez de pas trop en mettre dedans.
Oh ben au plus ça va, c'est grave. Hein.
Presque.
Ça rentre à la chaîne.
Derrière la fosse. Il y en a qui font ça avec de la confiture aussi. Thank you. Par contre, c'est ça. On a le truc, ouais.
Mais j'ai senti qu'il fallait beaucoup y toucher quand même.
C'est quoi la plante qui pousse les mécados?
Le mécadier.
Je crois. Ah non, on va mettre le nez à l'autre bout de la table. Tu vas voir, c'est... Je vais remettre en jeu. Non, mais c'est bon pour tout, de toute façon. Alors, il va falloir trouver une place quand même, plus. Mais il suffit d'y aller, puis on verra bien après.
Il y avait une chaise là ce matin que j'avais mis. Il faut peut-être fermer la porte, et puis il y avait une chaise qui était libre ce matin. Donc, il y a assez de chaises dans la pièce.
Elle est là, je pense qu'elle doit être là.
Oui. Je suis un peu obligé d'être là. Peut-être moyen de trouver une place aussi, là.
Non,
c'est lui.
C'est lui, la pipi.
Et elle a des poivrons. Et comment ça va, les... T'as goûté, toi? Non. Viens, je suis prêt dans le paquet de salade. Non, j'avais dit... Ah non, mais...
C'est ce qui est sur le document, c'est ce que je disais. Donc, pour le lire tranquillement, bon, on a loupé les explications. Mais... Tant pis. Ça, c'était mon verre, il me semble, non? Ah, je veux bien. Non, mais il y en a une là-bas.
Oui, mais je peux pas. C'est vrai
qu'il Moi, je trouve pas, moi. Non, non. C'est bon, Martine?
C'est
Donc on était au dernier principe design, où j'ai défini, ça me permet de reparler du système. Comme Alain n'était pas là ce matin, c'est une bonne chose. Donc on peut concevoir, en permaculture, on raisonne en système. Donc chaque chose qu'on considère est un système. Donc que peut-on designer ? Un appareil, un bâtiment, un terrain, un groupe, une organisation humaine, une association, une entreprise, une collectivité, une ville, un pays, le monde, la galaxie, bon, bref. Dieu, ça c'est pas sûr. Ah oui, ben ça. Il faudra qu'on lui apprenne la permaculture. Donc dans les appareils, j'ai mis poêle de masse, machine à laver, marmite norvégienne pour donner quelques petits exemples, parce que on pense pas toujours spécialement à ce genre d'appareil. Mais... machine à laver, il y aura un travail à faire, intéressant. Par exemple, il y a des gens qui couplent les machines à laver à des vélos. Donc parce qu'ils veulent faire ça, ils veulent pas faire ce que je fais, c'est-à-dire de faire tourner un groupe électrogène de temps en temps pour pallier au manque d'énergie, mais ils préfèrent pédaler. Bon. Non, eux, ils entraînent directement le tambour. Ouais. Ouais. Ah, parce qu'il y a moins de perdre, il y a moins de pertes en faisant ça. Moins de pertes d'énergie, parce que si on produit l'électricité, à partir de l'électricité, on réinjecte dans la machine, on a une perte toujours. Sur toutes les batteries. C'est là qu'il y a tout un design à faire, toute une conception à faire pour la machine à laver, pour avoir une machine qui fonctionne dans ces conditions-là. Donc, ça, c'est un exemple. Hein. Après, on pourrait dire comment adapter une machine à laver pour qu'elle fonctionne directement en 12 volts, pour qu'elle fonctionne directement sur les batteries ou sur le panneau solaire sans avoir à passer par un onduleur qui peut être problématique. Enfin voilà, il y a plein de choses. Le poêle de masse, comme je l'ai dit dans le principe lié à l'énergie tout à l'heure, plus on peut stocker l'énergie sur place, y compris l'énergie thermique, plus on a l'impression d'en avoir. C'est-à-dire que le flux d'énergie, enfin la quantité d'énergie qu'on a disponible, c'est le flux sur le temps pendant laquelle on arrive à le conserver dans le système. Donc un poêle de masse, ça conserve de la chaleur. Là. Par exemple, ce feu là qui nous chauffe à peu près à 5% de ce qu'il produit. Oui, c'est le but. Ça chauffe un peu quand même. Ça coûte peut-être 10%, je ne sais pas, sur un foyer ouvert comme ça. Et puis tout le reste, on envoie ça par le tuyau de la cheminée. Quoi. Donc si on était capable de faire circuler ce conduit de cheminée dans une masse, on stockerait l'énergie qu'on envoie par la fenêtre, on la stockerait dans la masse et elle rediffuserait pendant des heures dans la maison. Et Martine porterait 10 fois moins de bois.
Non, mais la cheminée, je vous rassure, elle ne sert pas à tout l'hiver.
Voilà, enfin 10 fois c'est un exemple, mais... Si c'est 5% de rendement, donc 20 fois moins de bois, si c'est 10%, 10 fois moins de bois. Une marmite norvégienne, c'est un système de cuisson. Je l'ai mis ici parce que j'ai un ami du groupe Ville en Transition qui en fait, de Dijon. C'est un système très isolé, c'est une grosse boîte, c'est-à-dire qui est très isolée, un peu comme une grosse glacière. Et dans laquelle, quand on met quelque chose de bouillant, donc on apporte une casserole qui est à ébullition, on la met dedans et ça perd très peu ses calories. Donc en fait, ça cuit pendant encore 3 heures, 4 heures, si on veut. Ça baisse graduellement, donc 3 heures après, il fait 60 degrés encore dans la marmite. Bon, ça dépend après du volume qu'on met. Généralement, c'est à 100 degrés, donc du coup, on arrive à des températures de... Ça doit être les Norvégiens qui ont inventé ça. Lui, il a appelé ça transicube. Alors, bon, voilà. Tu vois, donc, du coup, c'est plus. Mais voilà, pour dire ça, c'est à la portée de Ben, c'est un gars et puis quelques amis qui lui ont donné un coup de main, quoi. C'est, il fait entièrement de récupération, c'est marmite norvégienne en plus.
Et c'est quoi la définition du design pour toi ? Qu'est-ce que design ? Designer quelque chose, c'est faire
quoi ? On va dire conception, hein, pour aller très vite. Mais c'est une conception qui est aussi dans le temps. C'est-à-dire que tu définis le but vers lequel tu veux arriver, le projet, comment il va être à la fin, et puis après, tu vas définir les étapes, comment arriver à ce but-là. Donc tu vois, tu as une notion de quatre dimensions, quoi, en fait, dans le design. Il y a une idée de finalité. Ouais. Mais on va voir, on va en parler un petit peu après. Hein. Je regarde si je peux mettre le truc dans l'autre sens. Je réponds directement. Voilà, bon, ouais, on va parler de ça. Voilà, même si on reviendra dessus, mais les étapes du design. Donc on va partir. Bon, là en l'occurrence, c'est Martine qui est propriétaire des lieux puis qui va y vivre. Donc il va décider ce qu'elle veut en faire. Donc on va commencer par demander quels sont ses rêves et ses attentes. Donc ben les rêves, voilà, il ne faut pas hésiter. Quoi. Les rêves les plus fous, quoi. Parce que. Voilà, c'est ça.
C'est plutôt demain ou c'est plutôt la semaine prochaine, enfin, dans 15 jours.
Prépare tes rêves.
Dans 15 jours, non, que je vais...
Oui, pour dans 15 jours. Pendant 15 jours. Faut pas être avare là-dessus sur les rêves. Il faut au contraire, faut se laisser aller.
Maximum. Être raisonnable et
réalisable. Non, faut surtout pas que ça soit raisonnable, sinon c'est plus un rêve.
Oui, non, c'est ça, mais j'ai toujours peur de lâcher la brique. Je disais que tu me rappelles.
Et du coup, ça apporte énormément d'infos créatives en fait. C'est les rêves que tu vas avoir, ça va donner le champ de ce qu'on va faire. Donc du coup, voilà. Les attentes, c'est un peu plus raisonnable. Donc tu peux faire les deux, tu vois. Ensuite, on va lister les ressources disponibles. Donc il y a plusieurs types de ressources. Il y a les ressources qui sont sur place, que des fois on considère comme des déchets. Donc, ce qui revient au principe qu'on avait tout à l'heure de dire les déchets, ne pas faire de déchets. Donc là, ben, les ressources sur place, les ressources dans le voisinage, par rapport aux relations humaines et comment on peut se connecter avec d'autres. Parce que justement, si on a des aspirations qui sont très, enfin des rêves et tout un tas de choses, il faut qu'on puisse mettre quelque chose en face, une ressource en face, quoi. Et ça peut être des ressources importantes, quoi. Une relation au voisinage forte. Et les ressources proposées par des relations, donc amis, c'est pas du voisinage, mais c'est,
voilà.
Ouais. Mais ça peut être, je sais pas, des gens ou l'AITU. L'AITU, par exemple, pour aujourd'hui, c'est une ressource.
Ou des amis étrangers,
des infos qui ont des, qui ont des relations eux-mêmes. En fait, on fait grossir nos capacités par ça. Donc, concevoir le système une fois fini. Fois qu'on arrive à voilà. Donc là on va commencer si on fait par exemple après un petit design vite fait de votre petit terrain ou de votre terrain on va l'envisager une fois qu'il sera arrivé au bout, quoi, complètement fini.
De l'état final qu'on souhaite.
Non, on part du rêve et des attentes. Voilà. On part des deux bouts en fait. Tu pars du rêve. Après tu dis pour arriver à ça, faut que je fasse ça, où j'exprime concrètement, il faut que ça arrive à ça. Et puis ben après, tu vas visualiser toutes les étapes qui vont te permettre d'y aller. Donc les différentes étapes dans le temps pour arriver au résultat attendu. Donc ça veut dire que si on a fait un dessin du terrain une fois fini, ben on peut faire des dessins intermédiaires, dire à un an on veut ça. Alors on a ça sur ça ici. Voilà, ça c'est dans le bouquin de Bill Mollison, qu'est-ce qu'on a au départ. Alors bon, là on a les ressources en face aussi. Qu'est-ce qu'on a au départ, qu'est-ce qu'on a à mi-chemin quelques années après. Bon, je n'ai plus la date exacte, mais enfin, peu importe. Et puis qu'est-ce qu'on va avoir beaucoup plus tard. Alors en ressources, là je pense qu'il y a... C'est pas cohérent pour revenir aux ressources de tout à l'heure. Un tracteur plus 4 personnes, et puis là, plus de tracteur et une seule personne, ça va être plutôt l'inverse, quoi. Ça va être plutôt une seule personne là et 4 personnes là. Quoi. Ça dépend de l'objectif, mais enfin. Généralement, enfin, ou au pire, enfin, ou au mieux plutôt, une personne là et une personne là. Mais. Là, c'est un petit peu, presque un peu idyllique comme vision, quoi. Parce que...
Est-ce que c'est pas plutôt, si ça vise pas le nombre de personnes, que ça peut faire vivre?
Non, c'est les ressources, là. Ressources. C'est les ressources. Donc, les ressources du soleil.
L'énergie, quoi.
Oui, et l'énergie, tous les types d'énergie, ouais. Ouais. Il y a de l'électricité. Des gens. Et voilà. Voilà, on a... Pareil, on a plusieurs étapes, choses à 1 an, à 4 ans, à 8 ans. Et ensuite, ben, mettre en place, prévoir des journées d'action sur place pour mettre en place concrètement les choses. C'est-à-dire, si on a décidé de ne pas faire de but, tiens, de faire autre chose, et ben voilà, on peut dire... tel jour, on prévoit de faire ça, et puis hop, on envoie des invitations, des propositions, on offre à manger, on offre quelque chose en échange, et puis voilà. Alors, je suis un peu dans le désordre, mais c'est pas grave. Alors, il y a quelque chose qu'on utilise aussi dans le design... c'est les zones et les secteurs. Et après, on va pouvoir, une fois qu'on aura vu ça, on va pouvoir regarder un petit peu le design du terrain. Donc, zones et secteurs, je vais trouver ici. Voilà. Donc ici, ça représente la maison. Et autour, on va définir des zones dans lesquelles, en fait, c'est les zones où on va avoir à intervenir le plus souvent. Dans la zone 1, c'est là qu'on interviendra le plus souvent. Dans la zone 2, un peu moins souvent. Zone 3, encore moins souvent, etc. Zone 4, ou voire zone 5, s'il y en a une, on ira peut-être une fois par an. Enfin, pour y faire quelque chose. On a le droit d'y aller se balader, mais... on ira peut-être que très rarement, quoi. Alors que là, on va y aller très souvent. Alors pourquoi ça? Parce que par souci d'économie d'énergie, justement, d'énergie humaine. Si on a nos salades juste en sortie de cuisine, c'est mieux que de les avoir à 200 mètres à l'autre bout, là où on ne va jamais, là où il faudra aller spécialement chercher les salades. La touffe de persil à côté de la salade, elle serait bien. Voilà. Et on revient dans ces choses-là. Alors que les fruitiers, d'avoir un fruitier, bon, à part pour l'aspect esthétique, si on a envie d'avoir un pommier en face de... Je peux comprendre. Hein. Mais sinon, si on a plusieurs fruitiers et qu'on veut un verger ou autre, on va les envoyer plutôt plus loin que plus proche. Parce que ça ne demande pas un grand entretien, il faut juste pouvoir voir que les fruits sont mûrs. C'est sur une période de l'année assez courte et puis après on n'y va plus. Alors dans les zones, donc là on a fait des belles zones bien concentriques, sauf que c'est rarement comme ça parce qu'en fait ça dépend de la configuration du terrain. Donc on va définir un petit peu nos zones qui sont un peu plus biscornues. Et puis on va intégrer les chemins aussi. Par exemple, si ce chemin-là, c'est le chemin d'accès à la maison et où on y passe tous les jours, ben c'est intéressant, donc j'ai déjà un peu dit tout à l'heure, c'est intéressant sur cette zone-là d'y mettre des choses où on a besoin d'avoir accès souvent. Par exemple, un poulailler, qui peut être en zone 1 ou 2 ou le long du chemin. Parce que s'il était là-bas au bout à 300 mètres, on peut même les oublier, les poules. Ça arrive d'ailleurs. Donc, le renard, il les oublie pas, lui. Alors que si elles sont devant, bah, en plus, ça permet au voisin qui va vous donner un coup de main le jour où vous n'êtes pas là, de venir sans traverser tout le terrain, juste là à l'entrée. Donc, ça peut être devant, enfin, bon, voilà, quoi, sur le chemin d'accès. Quoi. Donc, la conception, une conception de proximité par rapport à ce qu'on a à y faire. Ensuite, les secteurs, ils sont définis par le soleil et par le vent. Bon, je vais grossir un peu parce que c'est peut-être pas assez. Donc, suivant les vents qu'on a, si on a par exemple tout le temps du vent d'ouest et qu'on veut s'en protéger, ben, on va mettre des arbres à l'ouest pour protéger la maison, voire les plantations de ce vent-là. Ou si le vent du nord il est très très froid et qu'il arrive sur la maison, bah pareil. Alors le résultat de ça, enfin il y a un des résultats qui est, je trouve ça, qui est ça. Ça, ce sont des pièges à soleil. Donc en fait, c'est des paraboles. Et les arbres qui sont derrière la maison lui envoie un peu de lumière, pas beaucoup, mais un petit peu, et en même temps, il protège du vent du nord, qui est assez froid. Donc pour les cultures, c'est pareil. Donc on trouve ça dans le livre de Bill Mollison. Viens voir lequel c'est celui-là. Introduction à la permaculture, d'accord. Non, c'est un remanié. Enfin, c'est plus même.
Oui, c'est un truc.
C'est un remanié, ils ont repris des trucs et puis ils ont.
Ben, les
discours,
c'est pas les mêmes trucs.
Ça ressemble plus aux deux presque. Enfin, ça, c'est extrait du livre Permaculture 2, celui-là, ce graphique-là. Permaculture 2. Alors, Bill Mollison, il en a fait pas mal. Il a fait Permaculture 1 et 2, qui sont sur les clés USB là. Permaculture 1, il est là. Voilà. En français, oui. Téléchargeable gratuitement sur Internet. Le 1 et 2, il a fait un guide du designer. Il a fait celui-là. Enfin, le guide du designer, c'est. C'est un pavé comme ça. Et bon, c'est. Disons, après s'être goinfré permaculture 1 et 2, c'est bien. Mais avant c'est presque trop tôt. Ouais, avant c'est trop, ouais. Voilà, ouais. Je vais revenir en.
Les secteurs, comment on les définit?
Alors,
on définit par rapport à soleil et vent combiné, en fait.
On va revenir dessus, ouais. Oui, c'est soleil et vent combiné. Et après, il peut y avoir des choses un petit peu particulières, locales, quoi. Je sais pas, un endroit où tu as un courant d'air particulier, bon, faut le noter sur le. Je sais pas, admettons que tu aies des forêts.
Ceux qui sont définis, il y a quoi, histoire de.
de l'endroit où les gibiers accèdent, c'est ça, ouais, ils marchent tout le temps, là.
Oui, après, oui. Bah,
il y a les vents plus froids.
Tout ce qui va interagir sur ton terrain, tu vas le mettre comme ça, mais ça ne sera pas forcément un secteur comme ça. Si c'est un gibier qui passe ici, bah, tu vas te dire, là, je vais faire peut-être une haie là pour que mon gibier puisse continuer à passer. Et puis, voilà, pour le nourrir, qui aura diverses fonctions.
C'est moins facile à comprendre que la nation du zoo.
Oui.
Donc secteur, c'est de l'extérieur vers l'intérieur, et
soit
c'est
de l'intérieur vers l'intérieur. Ouais. C'est secteur, il y a des gros courants dans les secteurs. Tu vois, le vent, il va dans toutes les zones.
Oui,
secteur,
oui.
Le secteur, peut-être le vent qui passe dans toutes les zones.
Oui, c'est
dans ça. Zone, c'est plus géographique, secteur, c'est plus conditions climatiques qui passent dans nos zones.
Oui, c'est complètement lié aux conditions climatiques, quoi. D'ailleurs, les secteurs, on les dessine comme ça. Oui, dis. Je vais passer le bouquin. Ça distrait. Hein. Ah ben là, ils sont... Ou sinon on fait 5 minutes de prise de référence de bouquin et puis on continue après. De celui-là, la graine de pain. Ouais. Bah oui, avec plaisir, ouais. Ouais. Ah, donc bon, les vents dominants, le sud, le nord, où est-ce que dans les secteurs on peut définir aussi où est-ce que le soleil se lève l'hiver, où est-ce qu'il se couche l'hiver, où est-ce qu'il se lève l'été, où est-ce qu'il se couche l'été. Parce que comme c'est pas pareil pour les orientations, ah non, il y a une grosse différence. grosse. oui. Et donc, comme c'est pas pareil pour les orientations, c'est intéressant, parce que justement, si on veut que notre soleil rentre dans la maison l'hiver, la hauteur du soleil aussi, là, c'est pas sur le secteur. Non, mais t'as la hauteur, mais t'as aussi la position où il se lève. C'est-à-dire, l'hiver, il va se lever à l'est, certes, mais au sud-est. Et il va se coucher au sud-ouest. Alors que l'été, il va se lever au nord-est, et il va se coucher au nord-ouest.
Il couvre un secteur.
Il couvre un secteur beaucoup plus grand. Donc c'est. Il y aura des. Et puis il y aura des périodes. Tout ce qui est à l'est et à l'ouest sera peu ensoleillé l'hiver, mais très ensoleillé l'été. Donc il faut en prendre compte, parce que si tu mets une véranda de ce côté-là, de ces deux côtés-là, il faut savoir qu'elles seront chaudes. On va trouver des systèmes d'évacuation de soleil pour l'été. Après, ça se joue. Hein. Des fois, ça peut être bien d'ailleurs de faire comme ça aussi. Il faut pouvoir couper la chaleur qui vient de la véranda pour pas qu'elle te réchauffe la maison quand t'en veux pas. Donc tout ça, on va l'inscrire sur les secteurs. Mais... Bon, c'est principalement les vents dominants et puis le soleil. Déjà, on a déjà pas mal de choses au niveau des secteurs. Pas la peine de trop se prendre la tête avec les secteurs. Par contre, les zones, c'est très important parce que ça va conditionner l'effort que vous allez mettre tous les jours. Alors, tout ce système de zones, on peut de travailler par proximité, on peut le copier à l'intérieur d'un habitat. Parce qu'en fait, si on conçoit l'intérieur d'un habitat, on va faire exactement de la même façon. Et donc, par exemple, une cuisine avec une salle à manger, est-ce qu'on va manger souvent dans la salle à manger ou pas, et comment on va décider de vivre si on a 10 gamins et puis qu'on a la cuisine qui est distante de la salle à manger de 15 mètres, chaque fois qu'on va amener un plat, ça va faire 15 mètres, 30 mètres. Ça va pas, ça va pas trop, donc il vaudrait mieux qu'on puisse manger juste à côté de la cuisine. Voilà, il y a tout un tas de choses comme ça. Après, si c'est vraiment en fonction de ses choix personnels qu'on va choisir comment on va disposer tout ça. C'est du bon sens, ouais. Ouais. C'est du bon sens prémâché. Prémâché. Et c'est. Mais bon, on va marquer un devoir, mais bon. Comment ? Au maximum, oui. Mais après, alors, autant à l'extérieur, bon, c'est souvent évolutif parce que les plantes elles-mêmes, elles se déplacent. Donc, si on les laisse faire, donc ça, c'est bon. Bon, à l'intérieur, une fois qu'on a posé un poil de masse, ça se bouge, hein, mais il faut 3 jours, quoi. Bon, ça se fait. Hein. Et quand on n'est pas trop isolé, d'ailleurs, le poil de masse, c'est pas mal. Je dis ça pour moi aussi. Ce que j'ai dessus là qui va dans le sens du design que j'aurais pu zapper. Ouais, ben après ça c'est des exemples d'implantation. Bon là on voit. C'est pas trop dans le détail, mais on voit que les arbres sont mis assez loin de la maison, et puis que les plantes aromatiques sont proches, les légumes feuilles, donc salade, tout ce qu'on va vouloir cueillir, c'est directement sorti de cuisine.
Sauf qu'il y a des rotations, donc ça ne peut pas compliquer.
Alors les rotations, ça dépend comment on fait, comment on définit le système, quoi. Certains permaculteurs n'axent que sur les plantes pérennes.
Ah oui, d'accord.
Donc du coup, ils font pas de rotation parce que les plantes, elles sont là tout le temps, ils les replantent jamais.
Ah oui, c'est que des vivaces.
Que des vivaces, des voilà, que ouais. Ou des choses qui se ressèment, mais elles se ressèment d'elles-mêmes. Donc du coup, ils les suivent, quoi. ils peuvent leur décaler. Oui, mais enfin, quand tu les mets là, tu as des chances qu'elles gravitent autour de là pendant un petit moment. Puis après, si elles sont parties, tu peux. Toujours l'interaction que tu vas avoir, c'est de les ramener là où tu as envie, quoi. petit voilà. Effectivement, il y a une personne qui m'avait posé une fois la question qui avait fait une école d'agriculture, tu sais, pour un BPE REA, quoi. Et puis mais les rotations de culture en permaculture, est-ce que tu connais sur le coup, je dis je connais pas trop de. Mais ça me semble pas super compatible avec le moins de travaux possible. Mais après, on aime bien manger des tomates, on aime bien manger certaines salades.
Une
plante à l'autre. Ouais. Alors là, effectivement, ils ont représenté par planche parce que de toute façon, quand on va faire un design global. Ils ont représenté par planche, mais ils ont quand même mis légumes feuilles. Et ils n'ont pas dit là vous mettez que des salades, quoi. Donc, puis après on sait bien qu'une fois qu'on va rentrer dans le détail, on va amener des plantes, on va diversifier les plantes parce que c'est notre intérêt, quoi. Puis c'est l'intérêt des plantes aussi. Là, c'est une petite ferme. Alors bon, ils ont mis les animaux un petit peu à distance. Les arbres, un petit peu le principe de la du piège à soleil qu'on a vu tout à l'heure, mais avec un autre design. Oui, il y a le sud là-haut. Ouais. Il y a le sud en haut, oui.
Donc en fait, oui, il y a un piège à soleil.
Non, mais c'est pas. Enfin, visiblement, ça doit pas être australien parce que. Non, parce que le soleil il serait de l'autre côté, quoi. Le soleil il serait au nord, si c'était en Australie. Oui, la haie est au nord.
Ah, oui,
donc si t'as le soleil là, c'est bon. Si t'as le soleil là, tu te protèges du soleil. Après.
Oui, c'est parce que le sud est
Ouais. Après, si, si tu veux, si tu es dans un pays chaud et puis que tu veux te protéger du soleil, bon, bah, tu peux très bien faire ça pour d'autres raisons. Quoi. La spirale aromatique, bien connue. À noter qu'on est juste en sortie de cuisine. Là. Ici, quelquefois, il y a une petite mare ou enfin, un petit peu d'eau, donc ce qui permet d'avoir des plantes très sèches en haut. Et puis plus on descend, et plus on a des plantes qui aiment l'humidité. Donc on peut avoir tous les aromates sur une seule spirale. Bon, ça plaît beaucoup, spirale aromatique. Tout le monde veut en faire une.
Mais c'est bien pour les insectes, en fait. Ça se fait aussi pour les
insectes. Ça permet aux... Oui, oui, oui. Ouais, ça permet aux carabes un peu de se mettre dedans et puis tout ça. Ouais. L'abeille. Ouais, là je suis sur les principes d'Emilia Zolip. Ça n'est plus vraiment sur le design. Maintenant, vous avez à peu près tous les éléments. J'espère qu'on ne manque pas. Mais si on manque, on verra à la pratique. Pour concevoir un petit design d'un petit terrain autour d'une maison qui pourrait nous être dessiné. Ouais, par exemple. Comment, à moins que vous ayez des questions ou à moins que vous ayez... Non, tous les éléments, non. Il y a des éléments voilà, qui... Disons, ces éléments-là, c'est intéressant de les mettre en pratique avant d'en rajouter d'autres. Quoi. C'est pour l'intégration que je fais ça, parce que sinon, quelquefois, on emmagasine plein de connaissances. Alors, on fait un PDC, c'est super bien, ça dure 15 jours. On sort de là au bout de 15 jours, et puis on met un an avant de tout remettre en place dans sa tête, parce que c'est normal, quoi. On peut pas tout intégrer comme ça. Ouais, c'est la certification. Ouais. Permaculture Design Course. Ou CCP en bon français. Certificat de. Je sais plus, en français, je sais pas comment c'est. C'est en anglais. Moi, c'était l'université d'Australie, donc. Ah, tu veux nous faire un dessin de ton terrain avec le sud en bas? Oui, c'est ça. Ouais. S'il te plaît.
Si tu veux plusieurs couleurs, il y a des feutres rouges. Il y en a deux?
Oui, il y a deux feutres. Ah oui, bah oui, tout ce qui peut être. Attends.
Avec une terrasse devant. Donc le sud, enfin le nord est en bas. Et là on est sur la façade sud. Avec la porte d'entrée du côté sud. On rentre par là. Donc là, on a l'accès au jardin, enfin à la terrasse, et ensuite on descend l'escalier. Et donc on a le terrain qui est légèrement en pente, comme ça. C'est très léger. Ensuite, c'est clos ici, et après là, c'est du pré. Donc ça, c'est la vue de profil.
Le pré, il est à vous, non?
Oui, il est à vous.
Il est à vous. Et quelle surface ça fait après?
Alors, le terrain.
Ou les échelles, les longueurs, les.
Donc il y a la partie maison, ici, la maison, et là il y a une grange, puis là écurie. Donc là on retrouve la terrasse
pour la maison, qui est l'ampleur, avec le terrain en face comme ça. Et puis là, encore un autre terrain, et dans le prolongement, le pré. Donc ça, c'est des clôtures, tout le long, avec des ouvertures, on peut passer d'un endroit à l'autre. Et au niveau contrainte, on a la fosse septique qui se trouve ici, avec le lit d'épandage au bout. Et puis, à partir d'ici, on a un fossé, encore un petit peu en biais comme ça, donc un fossé ouvert.
C'est là où il y a de l'eau, c'est ça?
Donc là, il y a de l'eau qui coule. Pas en permanence, mais...
Elle n'est pas stagnante, elle coule.
Non, ouais. Alors, et ensuite, ça va, l'eau va s'épandre dans le pré en dessous et ça fait une zone très, très humide.
Très humide.
Donc, nous, ce qu'on. Donc, l'écurie, ici, il y a un accès. L'idée, c'est de mettre des animaux dans cet endroit-là, qui puissent se réfugier dans l'écurie. Et l'idée, c'est de créer un jardin dans cette partie-là. Donc, là, c'est clos avec une ouverture pour aller d'un endroit à un autre. Et pareil, ici, il y a une ouverture ici. Une barrière que tout simplement puis une ici.
Les animaux, alors, c'est des uniquement chaînes. Des poules ou il y aura autre chose?
Pour l'instant, il n'y a que des poules. Au niveau des chaînes, là, ça fait 35 mètres de long ici. Donc voilà. Ici et ici, on a. À peu près 30 mètres. Et puis là, c'est un petit peu plus long. Là. Ça doit faire 40 mètres. Donc là, il n'y a pas d'ouverture. On ne peut pas accéder à la grange par le terrain. Par contre, on peut accéder à l'écurie.
Et la grange
et
l'écurie communiquent
Oui, ici, il y a une ouverture. Donc voilà, la question, c'est comment aménager ça et ça. Donc pour l'instant, ça n'est que de l'herbe. Avec donc une légère pente, mais donc c'est un terrain argileux, il y a au moins 50% d'argile, très humide,
et plein nord.
Et donc le nord, oui, on a le... Donc, ce que je ne vous ai pas dessiné, c'est que là, c'était, là, il y a le voisin qui est là, et donc là, on a une ruelle, mais qui est en plein courant d'air. Le nord étant ici... Donc là, on a le vent du nord qui s'engouffre là. Là, on mettrait une turbine, on ferait de l'électricité. Et donc, ah oui, puis l'autre contrainte, c'est qu'environ, je ne sais pas combien il peut y avoir, 500 mètres, on a l'autoroute A6 qui fait du bruit.
Il faut déménager.
Elle casse le truc d'entrée du Ok. T'es un nord. Mais il est pas trop incliné, donc vous êtes ensoleillé quand même.
Ah oui.
Ouais. Même l'hiver.
Le soleil il vient sur la terrasse à partir de 10h du matin.
Même l'hiver.
Sur la terrasse. Après le terrain il est au soleil. Assez rapidement. Quoi. Ah. Là, la terrasse, toute la journée, elle a la lampe.
En ce moment, elle a la lampe toute la journée. Alors.
Ah, puis j'ai oublié de parler de l'aménagement que la terrasse, la partie gauche de la terrasse, là, j'ai fait qu'un seul rectangle. Pour l'instant, c'est de la terre. Donc on pourrait faire un espace végétal sur la terrasse.
Okay.
Le rectangle qui est...
Donc ça serait ici?
Voilà. À peu près la moitié, enfin deux tiers à droite, un tiers à gauche. Voilà, ici. Donc ce tiers de gauche, c'est de la terre.
Ok.
Pour l'instant. Et à droite, c'est pavé.
Pour le petit éclairage.
Et vos ouvertures, elles sont comment?
Les ouvertures.
De la maison.
Les ouvertures. Alors en fait, bon. La première chose qu'on peut dire déjà, c'est que si on veut faire un design, bon là c'est intéressant de voir ce ce qu'il y a autour et puis d'avoir la coupe. Mais c'est de faire plus grand déjà, dessiner plus grand parce que là on va pas réussir à l'intérieur à faire des choses.
Mais, non, mais non, hein,
si tu veux. Non, non, mais
genre, je. Ça descend plus grand.
Je te fais bosser un peu. Allez, comme ça, tu connais bien ton lieu. Tu prends toute la feuille.
La vue du dessus, donc, c'est ça ?
Ouais, ouais, du dessus. Parce que le côté, on l'a. Bon, éventuellement, là, si quelqu'un a besoin de revoir la vue de côté, on la dégrafera et puis.
Dans les
bah, tout est autorisé, mais après, on essaie de regarder ce qui correspond au principe de permaculture ou pas. Alors, il y a notamment un qui dit.
On entend ici le
qui dit. Je retrouve exactement. Ne produire aucun déchet qui ne soit réutilisé.
Il y a des jours.
En France, l'électricité, c'est nucléaire. Ah bah oui, ça c'est autre chose.
Oui. Ouais. Il connaît ton papa.
Ah bon. Roland, ouais. D'accord. Moi, je...
Pardon.
Ah oui, pour éviter que les...
Oui.
Ouais. On est plus vite autonome avec du bois, à mon avis, mais c'est assez technique, en fait, les pompes à chaleur pour...
Pour l'eau, bah on
va récupérer. Dans l'autre sens. Il fait bien. C'est pas grave, le sud est rouge, c'est le sud est rouge, c'est pas grave.
C'est l'escalier. Ah oui, c'est la terrasse, c'est l'escalier qui descend.
Oui, c'est l'escalier qui. C'est un gros escalier donc. C'est à peu près les bonnes dimensions là.
Et donc ta terrasse elle est en terre, elle tient. Donc t'as un rang de parpaing qui te tient à la terre. Tu disais que tu avais toute l'eau qui arrivait, c'est vers le fossé là, c'est là que ça se déverse.
En fait, il y a un aqueduc souterrain sous la ruelle là, qui nous amène les eaux de tous ces bâtiments là, les bâtiments de gauche et toute la rue qui est au-dessus. Toute la flotte arrive ici et finit dans notre pré en dessous. Quoi.
Mais c'est des eaux pluviales donc on voit, c'est que moi c'est l'eau propre.
Et dans le pré, c'est qu'il y a
C'est la rue, c'est même susceptible d'être pollué quand même.
C'est de l'eau. Si la mer gère avec des chars, c'est
je sais pas, à l'huile, tu vois, il suffit que t'en as un qui pète son moteur à cet endroit-là, qui fuit de l'huile.
Il dégage dedans, parce que des fois ça fait chaud.
Ah, 25 mètres carrés de lit d'épandage de la fosse septique, qui fait que ça, vous savez, sur un lit d'épandage, on met rien sauf des, sauf de l'herbe, on met pas de buisson, enfin pas d'arbre à racines. Et puis il faut que ça soit accessible, ça, c'est ça un peu notre problème. C'est qu'on voudrait bien mettre un tas de terre dessus, puis on n'en parle plus, mais il faut que ça soit accessible pour l'entretien.
Ouais.
C'est toujours. J'avoue que c'est une grosse verrue que j'aurais dû mettre ailleurs. Mais maintenant qu'elle est là, sur le lit d'épandage, c'est un lit de sable, donc il ne faut pas mettre un arbre dessus qui a des drains dedans, il y a tout un tas.
Tu peux mettre des iris d'eau ou non, ça tient. Non, t'as pas de flotte, ouais, de toute façon. T'as pas de flotte apparente.
En fait, il y a la fosse qui est répartie sur tout le lit d'épandage avec des drains de drainage. Ça traverse 80 cm de sable et il y a des drains en dessous qui viennent collecter, il y a un puits perdu en profondeur à la fin du...
C'est vous qui l'avez fait installer, ça, c'est
moderne? Ah ouais, c'est tout neuf.
C'est tout neuf, oui.
Mais c'est une fosse tout haut. Bon, elle fonctionne bien, hein. Mmh. L'aération sur le toit de la maison, enfin, tout... il y a les tuyaux au-dessous. Mais on ne peut pas rouler dessus avec des engins lourds, ça c'est pas trop un problème, mais il faut accéder au bouchon pour nettoyer.
Pour vider,
ouais.
Donc ça c'est des grillages, hein. Clôture grillagée. Là.
Ok.
Voilà. Donc après, bon. Vous demandez également l'avis à Coradine. Sur ce qu'on va mettre.
Pas d'avis.
En fait, l'idée que vous avez, c'est donc de mettre des poules et de faire un grillage.
Des poules, oui. J'ai arbre. On a d'autres terrains également de l'autre côté de la route, en face de la maison.
Avec, oui, avec ce qu'il y a. Et le terrain qui est en dessous, enfin, les surfaces de terrain, c'est quoi ouais, vas-y, dis-moi.
Donc, en longueur, ça fait 30 mètres de long.
Mais en surface globale.
Ah, en surface, ben...
30 par 40, c'est ça ?
1000 mètres carrés.
Il y avait... 1200, moi je dis 1300.
Il y en a 10 heures dans la partie où il y a la fosse septique, ça fait 10 heures. Et puis la partie droite, ça doit faire... de plus 1200 mètres carrés.
Et là en dessous,
en dessous il y a
encore à peu près
60 arbres. Il y a un peu plus d'un demi hectare. C'est gros. 6000 mètres carrés.
C'est tout dans le prolongement. Bon. Bon, mais ça veut dire que vos rêves et puis vos projets, ils sont un peu légers pour l'instant, c'est ce que vous nous avez dit par rapport à la surface qu'il y a.
Ah, tu veux dire qu'il y a un potentiel c'est sûr.
Bah oui, ouais.
Il faut que ce soit réalisable et aussi bien, enfin, également après avec l'entretien derrière.
Parce que là pour l'instant le pré il reste
le pré, il y a des bovins qui sont mis dedans, il y a une coupe de foin de fait dans l'année.
Ouais, ils sont prêtés quoi, donc vous louez ou...
On loue même pas, mais on laisse comme ça arrange tout le monde, c'est un échange de bons procédés.
D'accord. Bon après il faut savoir que c'est pas toujours évident de récupérer un terrain quand il est prêté comme ça à l'agriculteur.
Ouais.
Ouais, même des fois prêté. Hein.
Ouais. il rentre pas dans le calcul de la prime PAC.
Ah oui.
Il n'est pas dans son association.
C'est bien déjà.
C'est ça qui pose souvent la difficulté, c'est quand ils le rentrent dans leur surface, ils touchent les primes à l'herbe et tout ça.
Ouais.
Ils veulent pas
les ressortir. Ouais.
Là, non, c'est vraiment.
Non, là, il fait, voisin, il fait du foin dedans et en fait, il garde une partie du foin et il nous en laisse une partie.
D'accord.
Vous avez d'autres animaux déjà? Oui, oui, mais pas au même endroit. Ouais, on a des chevaux, mais pas au même endroit. Ouais.
Mais les chevaux, ils supportent pas le bruit de l'autoroute, donc ils reviendront pas.
Ah oui, ah oui.
C'est peut-être pas, c'est
limite,
c'est peut-être pas trop
bon. Ouais, puis en plus, il faisait de la fourrure. Parce que l'herbe, elle est très très riche.
C'est pas le bruit de l'autoroute, c'est chevaux. Non.
Comment vous l'avez ressenti?
Parce qu'ils étaient beaucoup
plus tendus. T'as les oreilles
tendues,
qui font ça tout le temps.
Ils sont agacés, quoi.
Mais parce qu'ils sont pas nés là, en fait. Je pense à un poulain dès le début, ça.
Oui. Ouais. Et des poules, alors vous voulez en avoir combien au total?
Tu vas grandir ton cheptel.
Moi non, mais vu la surface.
Non, mais la partie droite.
Non, mais c'est une question après, on s'est pas obligé.
Non,
hein.
Vous
en avez combien?
On en a 5. Enfin, on a 4 kilos, mais un peu précisément.
Est-ce que pour la coque, ça va? C'est pas trop pour les poules? Moi j'ai
4
poules, mais
est-ce
que je mets
un
coq?
Non, je suis
à quelle
heure
du matin? Ah, 5 heures. Bon, mais
ça va, c'est tard. 5
poules,
vous avez plus de. Enfin, c'est bien que vous regardez. Donc, il faut bien choisir les porte-greffes.
Oui, après, dans un petit espace, c'est détruit tellement vite.
Bon. Alors au début c'était pas grillagé, il n'y avait pas ce cloisonnement. C'est moi qui ai pris un peu l'initiative de faire ce cloisonnement parce que j'ai pas envie d'entretenir de l'herbe à longueur de journée.
Ouais.
Je voulais mettre des animaux pour l'herbe.
Ouais, pour l'herbe.
Pour pas que les animaux viennent dans le jardin. Bon, c'est vrai que c'est pas forcément très esthétique d'avoir fait ce cloisonnement, mais on peut habiller les clôtures, c'est un moyen de les camoufler un peu.
Après.
On verra, peut-être que dans l'avenir, on verra. Si on a plus de temps pour agrandir les choses, peut-être qu'on enlèvera la clôture centrale. Mais bon, pour l'instant, on met des poules, on va peut-être lui demander qu'il mette 2 ou 3 moutons, parce qu'il fait également des moutons, l'agriculteur, pour entretenir l'herbe. Et puis, j'ai pas envie de courir derrière une tondeuse.
Ouais, je comprends. Je comprends. Mais, parce que, le truc est là, c'est que 1200 mètres carrés pour 5 poules, ça fait beaucoup. Ils vont avoir du mal à entretenir tout ça, les pauvres.
Non, mais il y a un jardin qui va être là.
Ce qu'il faut faire, c'est un jardin dans les 1000 mètres carrés.
Dans les 1000, mais pas dans les 1200.
Dans les 1000 mètres carrés, c'est le potager normalement.
Ouais.
Et 1200, mettre des arbres.
Et aussi par les lâchers avec les 1200,
animaux.
La partie 1200, mais la partie 1000 mètres carrés à gauche, il n'y aurait pas d'animaux.
Ou
alors que l'hiver, ça ne cherche plus de problèmes de dégâts sur les cultures.
Ouais.
C'est le même. Ça permet que l'herbe se sorte, que ça ne soit entamé par certaines gramines passées, que ce soit les
pieds. Ça peut être pas mal, mais bon. Au niveau sérieux.
Oui, moi j'aurais bien aimé, oui, mais là du coup, on a des clôtures, quoi.
Là, on n'empêche pas l'autre, quoi.
Oui, mais pas dans la même disposition, moi je ne dis pas du tout ça comme ça. Je n'étais pas du tout partie sur ce schéma-là.
Oui, ça peut être bien intérieur.
C'était plutôt, comme j'ai vu, ces espèces de petites léchis, là, tu vois, un peu des bruits de vent ou des façons de créer un petit chemin, surtout aussi de briser le vent, comme on a vu sur d'autres schémas. Et puis de planter derrière, parce que quand le vent en plein nord souffle, ça peut être bien rangeant. Donc c'était plutôt quelque chose de moins rectiligne. C'était de vraiment de faire des endroits très adaptés à ce qu'on souhaitait planter.
Et vous chauffez comment?
Avec le poêle. Une chaudière de salon, on va dire. Notre poêle qui est dans la maison, elle est planchée chauffant.
D'accord.
Okay. Poêle bouillard.
Poêle à bois.
Pas bouillard, moi aussi. Et moi, j'ai pas un crachat chauffant. C'est mais
plus au-dessus, c'est la route. Ouais.
Moi, j'ai des radiateurs.
Vous auriez presque.
Oui, je me montre pas, je crois.
Vous vous auriez presque les moyens de d'avoir de la forêt pour vous alimenter en bois, en fait, même si vous le faites pas vous-même, hein, vous pouvez le faire faire, et puis des fois c'est
dans l'idée, voilà, c'est dans la partie basse, plutôt du côté ouest, parce que c'est souvent là que le bruit vient.
C'est l'autoroute.
Une façade d'arbres, en fait. Et puis en même temps, voilà, faire un petit forêt qui viendrait combler le reste.
500 mètres,
c'est du temps.
Le bruit, on aura du mal à contrer le bruit parce qu'on est dans la vallée de l'Armançon, où se trouve l'autoroute. C'est toute la vallée qui fait caisse des résonances. Donc tu auras beau mettre des arbres, à mon avis, tu auras toujours la résonance parce qu'on est dans la vallée.
Alors il faut pas mettre une rangée d'arbres. Moi je mettrais, si vous avez 6000 mètres, moi je mettrais une forêt.
Il y a déjà une forêt. Carrément. Le changement de notre prix, on a une forêt qui fait 200 mètres de large.
D'accord.
Enfin, nous.
200 mètres, et après il y a l'autoroute juste après.
Les 200 mètres d'arbres, ça n'arrête pas.
Ça n'arrête pas suffisamment.
On est dans la vallée, donc c'est toute la vallée qui résonne.
Même l'été, même avec quand il y a les feuilles.
Ça
dépend si les Parisiens sont dans le sud ou pas, en fait. Une fois qu'ils sont arrivés dans le sud, on a moins de bruit.
La forêt, la forêt qu'on ne voit quand même pas toute, la une grande partie qui est directement
découverte. Enfin, chez nous, on a la forêt.
Ouais.
La boîte de...
Ouais, mais l'autoroute, comme elle est en biais, il y a quand même d'autres personnes qui
viennent. Et puis, la forêt, elle est loin quand même de chez vous.
Oui.
Donc, du coup, elle ne vous coupe pas. Si tu avais une forêt à, bah, là, 30 mètres. Le bruit pourrait pas passer au-dessus, le bruit qui arrive en direct, hein. Après, si ça fait écho de l'autre côté puis que ça revient par l'avant, ça va être difficile de faire autrement. Ou alors il faut mettre vraiment des grands arbres, mais tant qu'on pousse ça. Donc si on regarde, bon, on n'est pas parti par zone là parce que ça s'impose un petit peu comme ça, en fait. Si on veut regarder par secteur, donc on sait déjà que ce secteur-là, bon, si on part du, si on dit que le centre de la maison, on part du centre de la maison, on va dire que tout ce secteur-là, c'est un secteur où il y a des nuisances. On a le froid, on a le vent froid certainement aussi, et puis on a la forêt. Et puis on a l'autoroute. Cette partie-là en arbre, ça paraît important. Les 6000 mètres carrés, là, ça dépasse pas, c'est pas plus large, c'est la même largeur. Ça dépasse en plus. Des deux côtés ? Donc, parce que ça vous ferait des arbres à 30 mètres de chez vous. Donc du coup, l'atténuation du bruit, elle serait beaucoup plus importante parce que chaque arbre, ça fait un écho qui atténue, au niveau du son, ça crée un écho qui atténue le son qui arrive. En fait, je m'explique sûrement mal, mais c'est ce qu'il y a dans les chambres anéchoïques, quoi, les chambres avec des formes un petit peu... quand on habille une maison, une pièce de boîte à eux pour insonoriser. Ça fait un peu la même fonction au niveau des arbres. Donc ça aurait le coup d'avoir ça ici. Donc, moi je dirais déjà une forêt là.
On voit l'église de Saint-Thibault.
Oui.
On voulait quand même, quand on est sur la terrasse, garder la vue, mais on peut pas voir le...
Et elle est où, l'église ?
Dans l'axe.
Pile au nord.
Pile poil, là ?
Un peu sur la droite. Hein. Elle suit ton trait que tu as dessiné à ta gauche. Là.
Ici ?
Non, qui part de la maison. Là.
Ouais. D'accord.
Tu ne veux pas garder la vue ?
Non. Non, parce qu'il y a trop de contraintes, là.
Après, on peut renier un peu la forêt par là, mais c'est sûr que c'est au détriment du bruit. Enfin, ça va tout de suite. Alors bon, du coup, on a un début d'éléments là. Après, vous avez des ouvertures à l'étage ?
Non, pas de
non,
ce côté-là.
Pas de ce côté-là. Côté,
les chambres donnent du
côté sud.
Les ouvertures sont du côté sud. En fait, le côté nord, là, on a une baie vitrée, un triple vitrage. La porte d'entrée de la cuisine, ici. La petite à droite. Ouais. Là, c'est la baie vitrée. Voilà, à droite, c'est la
porte d'entrée, baie vitrée.
Cuisine, baie vitrée. Et tout le reste, c'est un bardage bois, isolation chambre sur toute la façade, en fait.
D'accord. Elle
on
est bien.
On a mis ça pour le côté froid du nord. Mmh. Bonne isolation.
Mmh. Et puis phonique aussi. Ouais, ok.
Les matériaux-là pour le bruit,
ça. Ouais, ouais. Pour les champs électromagnétiques aussi, ça va bien. Pour les t'as dit chambre, hein ?
Chambre, fibre ouais. De bois, ouais. Bardage de glace.
Ouais. Moi, j'ai vu une maison construite en briques de chambre. Il était en face d'une antenne. Bon, elle était loin, mais elle était quand même en direct, quoi. Dehors, on avait 5 barrettes au téléphone. À l'intérieur, on n'en captait plus.
Donc,
c'est ça. Et c'est le même effet que ce que je viens de décrire pour le son, mais pour les champs électromagnétiques, elles se reflètent et elles s'auto-annulent sur les brindilles de chambre à l'intérieur. Quoi. Donc du coup, ça fait une base. Disons, on pourrait presque avoir, si on partait là-dessus, on pourrait presque partir sur les systèmes des pièges à soleil, en fait, là. On est pratiquement ce qu'on a vu dans les pièges à soleil, pratiquement c'est applicable. Quoi. C'est-à-dire que la forêt, bon, je fais abstraction de ce qui existe, des limites qui existent pour l'instant, mais bon, après, il faut peut-être adapter par rapport aux limites, mais la forêt, elle pourrait avoir une forme plus comme ça. Quoi. Avec éventuellement une haie qui continue ici.
Il y a le voisin en direct. Dans le fossé, là. À gauche, il y a le voisin.
Là, il y a un voisin, donc là, elle va protéger du. Enfin, elle va séparer du voisin. Protéger. Enfin, il ne va peut-être pas vous attaquer tout le temps.
Il
faut mettre avec des épines, alors. C'est minimum. Donc.
Lentement,
un comment
un
saule bonne question.
Je sais que j'en ai planté.
Il me semble que c'est rapide, oui, parce que c'est.
Ouais.
Parce que c'est. Parce que ça fait pas du bois dense, donc je me dis ça va pousser vite.
Il n'y a pas d'eau là.
Ah, c'est pour ça.
Il n'y a que les écoulements du champ qui est au-dessus.
Ça dépend de pas assez.
Ah, quoi, c'est... Plier, c'est ça
de toute façon, il faut mettre plusieurs essences.
Il faut les mettre dans la maison. Le côté le bruissement des feuilles qui peut empêcher avec le vent de faire
feng shui.
Qui peut,
qui peut être distrayant et éviter qu'on l'entende. Moi, je focalise un peu sur
l'autoroute. Sur l'autoroute, ouais. Bon, alors, il faut mettre du frêne pour que ça pousse vite. Comment ?
Ah oui, c'est vraiment parce que le plier, ça vient aussi sur la surface et qu'on va mettre ensemble. Alors, il ne faut surtout pas les approcher des maisons. Par
exemple, non, mais c'est à distance. Ouais.
Ah. Oui, puis le frêne, c'est du bon bois de chauffage. C'est, ça coupe, ça pousse, en, ça pousse vraiment vite fait. Donc, après, de ce côté-là, puisqu'on a, on raisonne en secteur, donc on est sur la partie extérieure, la partie boisée, la partie bon, donc haies, buissons, etc. De ce côté-là, est-ce que ça vaut le coup de se protéger, de mettre une haie ouais, ou
là,
pas ?
Il y a déjà une haie de 3M. Et après la haie, c'est mes grands-parents.
D'accord. Ils sont méchants, les grands-parents, ou ça va ?
Non, mais c'est des anciens. Non, mais il y a une haie de 3M existante qui est taillée okay. Au carré par le grand-père, il y avait un petit toit là-dessus.
Bon, d'accord. Il aime bien.
Ouais.
Ça vous gêne pas trop le bruit là ? Non, c'est bon. Ah oui, bon, ça va.
Par contre, c'est la tondeuse. Il m'a dit l'an dernier, j'ai tondu 19 fois.
Ah la vache.
19 fois. Il adore le tracteur tombé.
Ah ouais.
Il fait la commune, il passe la première entière.
C'est vrai que vient le vent quand même.
C'est... Le vent vient de ce côté-là, ouais. L'ouest.
Le vent, la pluie, ouais. Mais bon, vu qu'il y a déjà une haie.
C'est une haie qui fait 1,50 m.
Et puis, mais de toute façon. Ouais, mais après, il va pas monter sur. Tu vois, le papy, il va pas monter pour étayer la haie, quoi. Ça, c'est pas gagné.
Non, mais la haie, elle est chez lui, il fait ce qu'il veut.
En plus, ouais.
Encore mettre une autre de votre côté.
Plus haute.
Bon, ça fait partie des éléments à gérer. Voilà le voisinage. Bon, là. Hein? Exactement. Il faudrait mettre plus haut, mais bon, voilà, on l'aime bien, on veut être en bon terme. En plus, on est de la famille, on va pas l'embêter, quoi. Voilà. Donc là, la partie. Alors ici, c'est une partie très très importante. Enfin, cette partie-là, ça va être une partie très importante parce que on a de l'eau ici qui arrive là directement. Bon, pour l'instant, on s'est pas occupé de l'eau de si on la dévie ou pas, mais de toute façon, elle va finir là-bas parce que il y a pas bon. Hein, donc il y a beaucoup d'eau. Donc avoir des variétés qui poussent vite, c'est intéressant. Et il y a le sud. Puisqu'en fait, le soleil il va arriver comme ça, dans le piège à soleil. Et ça va être coupé du vent. Donc typiquement, c'est un endroit... je ne sais pas si les bambous, ça pousse bien sur votre sol, mais...
Les bambous,
c'est pas une horreur, c'est une plante créatrice de civilisation. Voilà, je ne peux pas te dire... Ah ben, c'est le but. C'est le but. Ah, ouais, il y a deux types de variétés. Il y en a qui font des espèces de gros tubercules et qui ne sont pas qui n'ont pas de rhizome. Pas tous. Tous ne tracent pas. Mais franchement, moi j'aurais un bambou qui trace, je serais très content. Hein. Un gros bien. On peut se chauffer au bambou, exactement. C'est un bon bois de chauffage. Ouais, c'est un bon bois de chauffage. Et en plus, ça peut être utilisé dans des poêles très efficaces qui s'appellent des rocket stoves, parce que ça a le bon format pour. Parce que c'est des trucs en longueur qu'il faut pour mettre dedans.
Oui, donc ça. Mais
non, non, mais j'en ai vu des comme ça quand même. Non, non, ici. En peut-être un peu en Bresse quand même. Ouais. Mais. Ouais. Mais. Et... Certainement, oui. Ouais. Ouais. Là.
Pour qu'elle récolte justement ici. Le fossé et en même
ouais.
temps
ouais.
qu'on utilise. Parce que c'est des marécages là, quasiment.
Alors là, j'étais sur la végétation. On n'a pas trop parlé de l'eau, mais c'est sûr que voilà, au moins une mare, ça pourrait être très bien. Quoi.
Ça serait bien aussi garder une zone humide sauvage.
Mais là, en fait, dans l'angle de la clôture et par rapport au fossé, là, voilà, ça c'est une zone qui va être difficilement exploitable parce qu'on a la clôture du voisin à gauche et le fossé. Là, ce triangle qui se trouve entre la clôture du voisin et
là.
Voilà, tout ça. La partie basse va être difficilement exploitable, donc c'est peut-être là qu'on peut créer un trou d'eau.
On va créer l'essai tout simplement, parce que là-dedans vous avez plein d'amphibiens qui viennent se.
Non, mais là il ne va pas se créer tout seul.
Bah, si vous laissez.
Non, mais l'eau elle continue, elle coule dans le pré, elle continue son chemin.
Ah oui, c'est bien.
On peut pas la. La
oui, d'accord. Ouais,
tu vas être obligé de.
Et si tu fais un pont sur ton fossé, tu peux aller de l'autre côté.
Ouais, mais c'est pas.
C'est marécageux.
Non, puis le problème c'est qu'il y a énormément d'herbes qui poussent dans ce fossé. Au bout d'un moment, si on ne fait plus rien, il se comble, le fossé. Et donc, la zone humide, elle remonte plus proche de la maison, parce que le fossé se colmate. Mmh. L'eau qui arrive continue d'arriver, donc elle inonde devant la terrasse, elle vient saturer les 25 mètres carrés du lit filtrant de la fosse septique.
Oui.
Si on n'attire pas un fossé qui tire l'eau vers le bas, vraiment, ça inonde plus haut.
Mmh.
Donc il faut obliger l'eau à descendre en bas du terrain, pour pas qu'elle s'approche de la maison.
Mmh. Mmh.
Alors oui, la solution, c'est on buse tout le fossé en retour, et l'eau, elle sort dans le pré, dans les 6000 mètres. On voulait garder ce fossé.
Il n'est pas alimenté tout le temps, lui. De toute façon, c'est... Voilà, c'est pas vrai.
Donc, si on fait une mare, au bout d'un moment, elle va... Elle sera sèche.
Alors...
Dans la mare.
La mare ? Non, la mare, elle sera peut-être pas sèche, je pense.
Il y en a une qui vient tout seul.
Il y a plein de sources, nous.
Elle a de la sécheresse, il ne l'a même pas séché.
Ouais.
Elle a mis de la sécheresse, il ne l'a même pas séché.
Donc, et c'est une mare ? Là, après, regarde, là, tu vois, tu vas arriver vers le voisin, tu peux créer des problèmes. Si toi, ton truc, il déborde, et puis qu'il déborde chez le voisin, dans la partie limite, là, j'ai pas trop... peu importe, à la limite, en quel terme on est, mais à moins que lui, il décide que c'est OK, ou de faire une mare sur les deux terrains, mais même, enfin... moi je la mettrais pas là, la mare. Surtout si là t'as une haie parce que t'es en prolongement de ta forêt, tu laisses ton fossé parce que là on sait que jusqu'à aujourd'hui c'est bien géré, que l'eau elle reste là où elle doit rester, elle va pas n'importe où. T'alimentes toujours ta mare et du coup ici tu te retrouves avec une interface qui est très intéressante parce que t'as de la forêt ici. Tu peux avoir des arbres plus petits ici, des plantes qui aiment l'humidité, très proches, et t'es toujours orienté au sud. Donc là derrière, par exemple, les plantes qui sont ici, elles vont prendre le soleil en direct et elles vont prendre le reflet du soleil dans l'eau. Donc en fait c'est l'effet miroir et ça chauffe deux fois plus quoi. Donc là on va pouvoir y mettre, et si on fait effectivement un petit creux, j'avais dessiné la forêt au départ comme ça, j'ai mis la mare là-dessus, donc forcément il y aura un creux dans la forêt, ça va protéger encore un peu plus du vent et tu auras une zone ici, tu auras créé un microclimat qui aura un intérêt pour mettre des plantes qui vont que là quoi. Là, tout de suite, j'en ai pas à l'esprit, mais j'ai du bambou, tiens. Alors, ici, les kiwis. Les kiwis. Ça adore avoir les pieds dans l'eau et la tête dans le soleil. Alors, est-ce que il leur faut beaucoup d'eau? Je te dis pas que au niveau du sol. Ça peut-être être trop détrempé, à voir. Après, il faut peut-être mettre du sable localement là où tu mets ton kiwi pour que ça soit juste son niveau de, que ça soit pas trop asphyxié quoi. Enfin, que ça soit pas, ça lui manque, ça manque pas d'oxygène. Mais en tout cas, entre ici et ici, je suis sûr qu'il y a une zone où il peut y avoir du kiwi. Ça c'est sûr. Qui va grimper dans les arbres ou dans les bambous. Tu veux dire quoi, toi, par rapport à l'écosystème global? Après, exotique, les kiwis. Voilà. Ah, les bambous. Les bambous, c'est une herbe. Hein. Donc, bambou, c'est une herbe. Quoi. C'est... Ouais. Moi, je mettrais du... Voilà, pour...
Et la densité de plantation pour démarrer...
En forêt, comme ça. Si le but, c'est de faire une forêt, même dense, quoi. Moi, je mettrais des graines, moi, carrément.
Le frêne, il en pousse partout, tout le temps.
Tu freines, ça va pousser à gogo. Tu mets de l'acacia avec, ça pousse. Elle n'aime pas Martine aussi.
Ah oui, l'acacia.
Des jeunes branches qui vont
bouturer, quoi. Peut-être. À essayer.
L'acacia, il bouture facilement.
À essayer.
Il
en jette beaucoup.
Mais tu peux semer, hein. Ouais. Il vaut mieux semer, hein, parce qu'un acacia, il va pas
rajouter. Comment? Ah oui, oui, c'est sûr.
Là, on est sur de l'herbe. L'herbe qui peut atteindre 1,50 m de haut en plein été.
Ouais.
Tu mets des graines d'herbe au milieu d'herbe, c'est ce qu'on a.
Tu mets des ronces. Bon, il faut. Mais tu peux très bien faire un petit trou et puis planter ta graine, quoi. Je veux dire, voilà, ou planter un groupe de graines, puisque les graines, tu les récupères dans la nature. Bah, s'il y en a beaucoup, tu vois, si tu fais de la graine, donc tu peux en mettre autant que t'en veux. Les animaux, ils arriveront jamais à tout bouffer, quoi. C'est...
Non, mais les vaches, elles vont faire de frais.
Ah non, mais là, les vaches, il faut arrêter, quoi. Je veux dire, si tu mets une forêt, des vaches, une fois que la forêt aura poussé, peut-être tu pourras remettre des vaches, mais...
En attendant, tu laisses l'herbe monter.
C'est
ta culture, tu la mets en dehors de sa forêt.
En attendant, moi, je couvrirai autour des endroits où j'ai planté, si vraiment pour pas que l'herbe pousse. Et puis voilà, du carton, un trou dedans, une graine dedans.
Là on est sur, là t'es sur 90 mètres de long.
Oui, c'est grand, oui, il y a un peu de boulot. À chaque fois que tu plantes une graine, c'est juste le tour, même si t'as de l'herbe haute comme ça à côté, c'est pas grave.
Donc on empêcherait l'accès aux animaux, on laisserait l'herbe.
Oui, dans un premier temps, de toute façon. Bah, le tout, c'est que ça dépend quand est-ce que tu fais le truc, c'est toujours pareil, quoi. Mais il faut déjà, au moment où tu trouves des graines, des graines des plantes en question, donc voilà. Tu peux laisser faire une saison, c'est sûr que c'est l'automne, ça serait presque le meilleur moment, même si là c'est pas. Puis ça vous laisse le temps d'y réfléchir aussi et puis de voir comment vous voulez faire les choses, parce que bon. Ouais, l'automne, ça pourrait être bien. Ouais. Parce que ça te laisse une saison pour les vaches. Après, c'est tondu, ça pousse plus si vite que ça. Oui, mais là, les semences, tu vas les mettre au moment où tu enlèves les vaches, donc en automne. Après, oui, à un moment, faut à un moment, de toute façon, faut arrêter parce que sinon, sinon, ça va pas aller. Il y a, sur des terrains humides comme ça, il y aurait du boulot, certainement qui devrait pousser. La terre, c'est peut-être bon, quoi que. Chez moi, c'est argileux, il y a des boulots à Vito.
Le boulot, c'est pionnier, ça pousse.
Oui, quand il y a
du boulot, ça pousse. Et puis, tu fais du. Avec ton boulot, tu auras du jus de boulot. Un arbre, ça te fait. Du jus de boulot, il est terrible. Hein?
Et des nids de corbeaux.
Des nids de corbeaux? Ça aime bien les boulots?
Ouais.
Ouais?
Il fait un petit branche comme ça, il se met dedans.
Hein?
Le bordel pour les enlever.
C'est un pionnier.
On peut mettre des zones.
Des zones, oui. Ouais, ouais.
Le mieux, ce serait qu'il récupère des petits frênes.
Aussi, ouais, mais bon, voilà, c'est un boulot de les déterrer, etc. Alors qu'en les plantant, en les semant, bon bah.
Quand ta zone très humide dans ton triangle,
là, tu je suis d'accord. Elle veut pas me croire, Marty. Que le mieux, ce serait de mettre tout en bambou. Ça fait venir les singes, oui, c'est ça le problème.
Moi je prends une.
Et des fruitiers aussi en bordure?
Alors,
pas assez grand.
Alors oui, comment?
Pas assez grand, c'est ça.
Pas assez grand, oui, en hauteur par rapport à la.
Au souhait qui était.
Ouais, alors. Là, ce qu'on pourrait faire, c'est faire ici un dégradé de hauteur d'arbre. Donc, à un moment, il y a des fruitiers. Ça va être plusieurs. À un moment, il y a la haie qui peut être d'un côté ou de l'autre. Ici, elle peut être de ce côté parce que c'est la limite. Mais la spirale peut se finir. La parabole, elle peut se finir comme ça. Et là, on est aussi parabolique dans ce sens-là, c'est-à-dire que plus on approche de la maison, et puis plus on a des plantes petites. Après, peut-être quelques arbres dans ces zones-là, ici peut-être pas trop.
On aurait peut-être l'idée de mettre un arbre sur la partie en terre de la terrasse, le tiers de gauche.
Un arbre ici. La terre, elle est ici.
Il y a de la terre ici.
Ah oui, j'ai cru qu'elle était là.
On va avoir une pergola justement, là, et tremper,
Alors là, on va. Du coup, on va revenir au design par zone. Parce que, par secteur, ça nous a défini quand même pas mal de choses au niveau du soleil, au niveau du. On n'a fait qu'un secteur, mais c'est pas grave parce que toute la maison est d'un côté. Et puis que là, on a toutes les nuisances, c'est intéressant. Par contre, au niveau des zones, on peut dire la cuisine, elle est ici, si je me souviens bien, ou là. Donc là, c'est la salle. Donc ça pourrait être intéressant en sortie de cuisine. Alors, la notion de distance, elle est relative aussi. C'est-à-dire que si, par exemple, il faut venir chercher un légume ici, et le remonter, c'est peut-être plus loin, c'est ça, c'est peut-être plus loin que d'aller là.
Là, c'est à l'ombre tout le temps.
Ici ? Ah, ça par contre.
Il y a la façade à gauche de la maison du voisin.
Ouais.
Sur l'alignement qui fait qu'on est à l'ombre que le soir, éventuellement après 15 heures.
Ah, 15 heures, c'est à l'ombre. Ouais. Du coup, là, au niveau plantation, ça va être.
Donc, il faut descendre des marches pour aller plus loin dans le terrain sans trouver le soleil.
Ouais. Est-ce qu'il va essayer de mettre que c'est ça là.
Moi, j'étais
parti
sur des carrés hors sol, toute cette zone-là, parce qu'en plus, à cause justement de tout l'épandage et de la fosse, et puis aussi, facile à cultiver.
C'est pratique, voilà. De travailler en hauteur. Ouais. Ça peut, mais par contre, il faut mettre des choses qui n'ont vraiment pas besoin de soleil. Quoi.
Non, pas sur cette zone-là.
Sur l'épandage.
Oui. Ici
sur les
ou sur l'épandage, carrément.
Oui, c'est bien, c'est
ouais.
Autre chose. Et ce serait de chaque côté des escaliers en descendant là pour régler ce problème.
Après, ça se fait sur palette même, les épandages. Pas les épandages, il y a n'importe quoi. Les jardins en carré, sur palette. Et puis, le jour où il y a besoin de tout bouger parce qu'il y a une réparation à faire...
Avec un
fond d'eau. Ça devrait aller. Hein ?
Ça pourrait assez vite, non ? Ou tu mets une bâche par-dessus ?
Avec une bâche dessus, ouais, de toute façon. Hein. Parce que oui, après tu fais un caisson étanche, tu cuisines, tu cultives tes légumes. Quoi. C'est vrai que là, ouais, effectivement, il n'est pas très bien placé le. Alors sinon, si on revient aux zones, donc par rapport à notre sortie de cuisine, puisque c'est quand même là qu'on va avoir le maximum de besoin de rentrer des produits qui auront été produits dans le jardin. Donc si on trace un cercle, on est sur la fosse. Donc la fosse, on va dire, c'est mort. Sauf à mettre des choses amovibles, voilà, qui se déplacent. Là, c'est la descente d'escalier, ça va être un passage, c'est mort aussi. Là, c'est tout à l'ombre. Alors, il y a peut-être que cette zone-là, pour moi, aujourd'hui, tel que c'est fait avec la zone... Avec
pas
cette place. Ouais, mais enfin, je veux dire... En élargissant même cette zone-là.
Un autre aspect
ça va être la zone où ça va être le plus cultivable, le plus près de la cuisine, quoi. Donc, mettre tous les aromates, les salades, les spirales aromatiques, etc.
Dans cette zone. Descendre les escaliers.
Ouais, mais.
Donc, tu vas faire plus de chemin que si tu vas.
Que si tu vas ici, mais là, tu peux rien cultiver.
Non, tu vas plus bas. Descends ton doigt. Descends ton doigt. Là.
Ouais, mais là, tu descends pas les escaliers.
Tu descends par ces escaliers. Là. De toute façon, pour descendre la terrasse, il n'y a que cette descente-là.
Oui. Toi, ce que tu veux dire, c'est que pour descendre, tu veux dire que pour aller là, il va falloir aller descendre là et revenir là. Ouais. Non, moi, je mettrais un petit escalier là et. Celle-là.
Elle a une semaine en plus.
C'est dommage. C'est bête.
En plus, la terre à cet endroit-là.
Elle est pas bonne.
On a fait les travaux, il y a les résidus de plâtre, de ciment, tout ça. La terre, elle est vraiment merdique à cet endroit-là.
Ouais, là, tu vas cultiver
la terre. La terre est meilleure plus bas, en dessous, les 25 mètres carrés de pot septique. Toute cette partie basse, là, ouais. En bas, c'est la bonne terre. Mm-hmm. Ce qui se rapproche de la maison, c'est de la terre.
En bas, ouais.
Ah oui.
Alors, oui. Oui, mais c'est loin.
Ouais, c'est loin.
Si on voulait faire un design par zone, c'est pour que vous compreniez le principe du truc, si on voulait faire un design par zone, alors on tracerait comme ça, bon, éventuellement on élargirait et on chercherait l'endroit le plus proche où on peut cultiver ce qui est vraiment ce dont on a besoin tout de suite. Oui, hors sol, exactement, ouais. Ou en rajoutant de la terre, ou en ramenant de la fertilité. Par exemple, là, dans Graines de Permaculture, il y a une technique qui est assez simple, en mettant des cartons, de la paille avec de la bouse de vache, enfin de la bouse de vache, et puis de la paille par-dessus, et ils ramènent de la terre fraîche, hein, enfin pas forcément fait jusqu'au bout. Donc carton, bouse de vache. Paille, et après quand ils plantent quelque chose, ils mettent du plant et ils ramènent de la terre localement là où ils plantent. Donc ils dégagent un petit peu, ils ramènent de la terre, et en fait ça marche très bien parce que les plants ils poussent dans la terre, mais ils bénéficient un petit peu de la bouse de vache qui est autour, et dès la première année il y a des jardins qui vont très bien en étant fait comme ça.
Mais c'est pas dans la durée justement.
Tout le temps, je sais pas. Il faut ramener, ouais. Il faut ramener de temps en temps. Bon, les retours.
C'est artificiel, en fait, c'est la couche superficielle dans laquelle ça a poussé. Et en dessous, si c'est mauvais.
Ouais, mais ça va entraîner les vers de terre à travailler aussi le sol. Ça ramène de la matière organique. Même si tu es obligé de le faire 2-3 fois. Mais en 2-3 fois, tu améliores, franchement. Non, c'est pas les lasagnes, ça encore. Donc après, la bonne terre, elle est ici, alors c'est ça. Jusqu'ici. Donc tout ça, c'est la bonne terre. Alors à ce moment-là, ce qu'on peut.
Par contre, les escaliers de la zone de bonne terre, il y a 10 mètres. Donc les 10 mètres, c'est quand même pas infaisable.
Non, c'est pas infaisable. Mais ça, c'est le truc qu'on dit toujours. Ouais, c'est pas infaisable. Mais est-ce qu'on va le faire?
Ah oui, on n'aura pas le choix si on veut manger.
Alors du coup, bon, si on a des jardins en carré, enfin si on met des jardins en carré à plusieurs endroits, bon, peu importe, vers les escaliers, assez proche des escaliers, on va voir ces aromates là. Notre zone 1, ça peut être les jardins en carré et puis une petite partie d'ici, simplement, ou la partie la plus proche, ou cette partie là, qui va être vraiment la plus proche et qui aura besoin d'être visitée le plus souvent. Notre zone 1 de la partie fertile, quoi. Puis ensuite, ben, on peut dire que ben, la zone un peu plus éloignée, elle va contenir ce qu'on va avoir besoin d'aller visiter un peu moins souvent, mais qui aura besoin d'être sur une partie fertile quand même. Alors bon, les poules, non, puisque les poules, elles sont là-bas. Puis ça, c'est bien. Parce que du coup, bon, elles ont déjà un abri, elles ont déjà accès direct, elles ont 1200 mètres carrés, elles sont impeccables. Quoi. Tout confort.
On va mettre des arbres dans les 1200 mètres carrés.
Oui. Donc là, ça devient un peu brouillon, on ne voit plus rien. Mais. Je ne sais pas si.
Tu dis par exemple, parce qu'on a moins souvent d'aller visiter tout ça, ça peut être par exemple des légumes cabanes ou des choses comme ça qui vont être plus loin, et puis ceux sur lesquels on travaille. Plus près.
Oui, et aussi, c'est aussi en fonction de la cueillette aussi. Tu vois, le plus loin, c'est à la fois de surveiller quand c'est bon, quand c'est prêt à ramasser, et effectivement quand on a de l'entretien à faire. Donc, après, voilà.
Mais je pense que
ça
circule quand même.
Non, on ne peut pas considérer que c'est très loin.
Moi, je ne vais pas forcément tous les jours. Il y a des périodes où je ne vais pas tous les jours jusqu'en bas de l'arbre.
Non. Bon, là, tu es jeune, tu cours comme un lapin, mais quand tu auras 100 ans, tu réagiras autrement. Quoi. C'est intéressant de... Et puis, c'est de l'énergie qui ne sert à rien, je veux dire, d'aller...
Oui, on se promène, on vit la nature. Ça aussi, il y a quand même le facteur
d'air. Ah bah, dans ce cas-là, tu mets tout loin, mais... Non, mais ça, c'est de la promenade. On n'est plus dans le même... ce qu'on recherche avec les zones dans la permaculture, c'est avoir une proximité pour un accès. Voilà, en gros... C'est presque un peu proche de la maison, parce que ça se ramasse une fois par an, et puis c'est tout. Après, on n'y fait plus rien, un petit fruit. Dégradé, ouais, on avait mis la limite ici. Bon, les petits fruits peuvent être dans cette zone-là. Ah, pardon, d'accord. Okay. Oui, on est d'accord. Oui, complètement.
Assez loin, ouais. Et en même temps fertile, et puis rentable au niveau alimentation.
Mm-hmm.
Les framboisiers, ça va bien.
S'il y en a beaucoup.
Ça dépend des petits fruits.
Tout dépend le nombre de mètres carrés de potager qu'on veut. Je ne sais pas quelle taille on fera de légumes.
Si tu mets ta forêt, que tu as une clôture pour les bêtes à l'extérieur de ta forêt, donc les vaches ne viennent plus dans ta forêt, tu as une clôture aussi pour les légumes.
Pour les oiseaux, les...
Les Anglais, ils font des cages qui fouillent. Les Anglais, ils font une structure, ils font des cages. Enfin, ils recommandent, quand il y a beaucoup d'oiseaux, des cages en grillage, en fait, qui protègent les forêts.
C'est pour ça que je dis
que
c'est
de
la volière.
Oui, voilà, c'est
de
la volière.
Les voisins,
c'est de la volière. Volière à l'envers.
Les oiseaux sont à l'intérieur, puis les oiseaux sont à l'intérieur.
Voilà, exactement. Tu veux la lancer, t'es...
Non, c'est les petits fruits qu'ils ont mis en cage. Cage. Oui, ben oui. On saucit. Ouais. C'est clair. Ouais, ouais. Mais il faut tout prendre en compte. C'est important. Bon, on va faire une pause alors. On fait une pause, hein? Non, j'ai mis plein. Je prolonge la pause parce que là, on s'est parti. Donc, non, non, mais c'est bien. Enfin, en même temps, j'aurais dû faire une pause avant. Donc, voilà. 5h15, bah, je sais pas, comme vous voulez. On peut aller jusqu'à 6h. On pourrait creuser encore un peu. Ouais, on fait une petite pause. Ouais. Ouais. 5h. Ça va vous éclairer, ouais.
C'est vachement intéressant ce que tu viens de faire, parce que je pense que ça s'éclaire petit à petit. Non.
Alors, au pire, si on a un peu de temps demain, on essaiera peut-être d'en faire un, comme ça on essaie, on verra bien. Bah oui, de quelque chose. Quoi. Là, on finira ce soir là-dessus.
Ça montre quand finalement, ça commence à se...
Ça se... Oui.
Ouais, après, il faudrait voir sur le terrain. Moi, j'ai l'auto, j'ai mis des outils à la terre.
Comme dit Véronique, il faut qu'on déménage.
C'est un plan. Hein.
Oui, oui, oui. Non, mais là, c'est sûr que c'est pas affiné.
Ça fonctionnerait vraiment.
Ah oui, la forêt là où on l'a mis, c'est clair que ça serait mieux. Quoi. Parce que si tu as une forêt à 300 mètres, ça te coupe pas le bruit comme une forêt à 30 mètres. Quand même.
Ouais,
peut-être.
La question
micro-climat aussi. Les IF, oui, je pense, oui, ce sont, oui, c'est du résineux, ça doit aller assez vite. Mais c'est pas, à mon avis, c'est pas dans les plus rapides.
Dans les résineux.
Ça va quand même considérablement atténuer.
Il y en avait taillé.
Non,
ouais, c'est hein.
Ça se mange, hein, les fruits de l'IF.
Les oiseaux les mangent.
Non, non, non.
Ils ont des normes.
Oui, ils ont été obligés.
Oui,
pas la graine.
Mais les grives adorent ça, les oiseaux adorent ça. Ouais. C'est vrai
qu'on ils veulent pas faire de pause.
Oui, forcément. Il n'y a jamais de perdants. Il y a toujours qui sont gagnants dans les affaires.
Attends, ouais, moi aussi. Si.
Est-ce que vous voulez boire, si vous voulez aller
Elle est en creux, non, je crois.
Oui. Où est-ce que vous trouvez les graines des ormes et des...
Ah, ben, les graines de frêne, il y en a dessus, là, actuellement. Il y en a, là.
C'est-à-dire qu'on prend sur l'arbre.
Ouais.
D'accord. Bah, et puis on fait quoi? On le met dans la terre, comme ça.
Bah, ouais. Bah, ouais.
Et on espère. Et on...
Bah, le frêne, on n'espère pas trop, hein, parce que ça va le
faire.
Hein.
Ça va le faire,
ouais. Ah, il y a des trucs où on espère, mais bon, voilà. Les acacias, les robinets acacias, c'est pareil. Dès que c'est en plein soleil, ça pousse à gogo, quoi. Donc il y a plein de temps comme ça.
Et la période pour les prendre sur les arbres, c'est
quand il y en a. C'était, enfin, sur les arbres ou au pied des arbres quand elles sont tombées.
D'accord.
Là, on est sûr qu'elles sont mûres. Donc on les ramasse par terre. On n'a pas besoin de faire d'escalade en plus. Donc c'est pas mal.
Ouais.
Et on est sûr qu'elles sont mûres. Donc on peut les ramasser
y a pas de
à ce moment-là.
De dormance et compagnie avec ça.
Si, si. Mais
il faut la mettre et attendre.
On peut soit les stratifier, soit les laisser au moins dehors, les laisser prendre le gel, quoi, pendant l'hiver.
on les met, quoi. Comme dans la nature.
À la limite, si on les met, voilà, on les met enterrés, à peine enterrés, ou dans une boule de graines pour qu'elles prennent l'humidité et puis qu'elles soient un peu protégées. Puis voilà, quoi. Mais sur de l'acacia, du frêne et du bouleau, à mon avis, ça va partir.
Faut les prendre sur les arbres.
Ouais, c'est ce que je dis, moi je les prendrais sur les arbres ou au pied des arbres, plutôt au pied des arbres, parce qu'elles sont mûres, quoi, celles qui sont par terre. Puis, on en prend plus qu'il en faut et puis à un moment ça va partir, quoi. Et si on les met par groupe, c'est mieux que tout seul. En général, parce qu'elles ont des hormones, produisent des hormones au moment où elles germent, qui s'entraînent les unes les autres.
Ouais.
Donc elles se stimulent, en fait. L'une entraîne l'autre, etc. Donc, les graines, en général, quand tu veux faire germer une plante X, tu me... Ouais, si t'en as, voilà, si t'en as à gogo, si t'as pas beaucoup de graines, là, tu... Comment ? Les carottes, non, ça va pas, les carottes. Parce qu'après, ça va... Après, faut éclaircir, quoi. C'est un peu pénible, quoi.
Mais tu parlais surtout des lignes.
N'importe quelle graine, une graine, vu qu'elle produit des hormones qui les aident à pousser. Donc si tu les groupes, l'hormone de l'une peut aider l'autre, et réciproquement. Donc du coup, ça fait. On croit que ça limite, mais non, c'est le contraire. Et moi, j'ai déjà fait l'expérience avec des tournesols, par exemple. Oui, ou tu laisses. Ouais. Ou tu coupes la.
Après, ça dépend si t'as des graines. Je vais partir moi 5h30 parce que tout le monde
est avec les bêtes après. Ouais, d'accord. Donc, je fais un petit tour aux toilettes et puis je.
Tu peux continuer avec les autres, c'est pas
ça. Ouais, ok.
Je l'ai pas dit.
Elle a peut bouger, mais la fausse prescrite, c'est un fond, c'est
6 000 euros,
je la bouge pas comme ça.
Pour ce matin, le lieu du soleil. Et c'est un peu qu'il y a longtemps que je
crois qu'on joue le Michel Tuss. Mais j'avais dit, je m'en fous. Voilà, l'idée c'est de payer les frais avec les clôtures. Si on ne demande pas les clôtures, on va être frais.
C'est 50 ans.
À gauche, à droite, c'est le verger et tout ce qui peut être en liberté où il n'y a pas de risque de dégâts.
Mais le petit bout là, il est pas génial. Le petit bout, il est pas.
À ce moment-là,
Non mais par contre les clôtures c'est vrai que c'est pas moi c'est des piquets en acacia avec un grillage. C'est un grillage solide, j'ai fait ça. Donc après on peut les habiller. Moi j'avais pensé sur cette longueur de clôture là, mettre des pommiers ou des poiriers en espalier, servir de la clôture comme support pour établir l'espalier en fait. Mettre des arbres en espalier.
Ouais, ouais. Bah, oui, oui. Si.
Voilà. Non, c'est pour cacher la clôture et puis avoir au début un support pour établir l'espalier, un palissage. Puis remettre un fil devant éventuellement, ou alors planter une vigne, on mettre en retrait. Et puis, de servir de la clôture en rajoutant des fils pour faire un palissage et canaliser la vigne à la verticale. Voilà.
Ouais.
Alors. Ou alors planter du maïs. Bah,
oui,
c'est
le maïs,
Si tu plantes du maïs, t'as les pigeons, t'as tous les pigeons de forêt qui vont descendre.
Ah mais bon, par contre planter une forêt, franchement.
Ça paraît chaud.
Non mais le problème c'est que quand les arbres deviennent arbres, l'herbe va devenir herbe à 2 mètres de haut. Et donc ça veut dire que pendant 5-6 ans, on va avoir un pré avec 2 mètres d'herbe qui va se recoucher tous les ans. On laisse comme ça.
Alors,
donc on n'exploitera plus, on fera plus de foin dedans, on fera plus de
ça. Nous on a fait une fauche là sur 4000 m2, 3 faux. Un après-midi, là il y a 15 jours, on a fauché 4000 m2 à 3 faux. Entre les arbres, comme la même configuration qui va être là. Entre les arbres, en évitant les cochons sauvageons. Non, on a laissé tout sur place.
Non, on récolte. On récolte
le
foin.
Oui. Mais si tu veux récolter des arbres, à un moment, il faudra que tu choisisses d'arrêter de récolter du foin.
On a des forêts qu'on exploite pour le bois de chauffage ailleurs.
Mais, enfin.
Non mais je me pose la question, c'est l'attente que les arbres deviennent suffisamment grands, comment on fait pour que le terrain ne devienne pas... Soit on le laisse devenir avec de l'herbe, puis pendant 3-4 ans l'herbe va se coucher, ça... On laisse comme ça, puis les arbres pendant ce temps vont grandir, ou alors on met des protections autour des arbres, pour que les moutons puissent aller autour sans oublier les arbres.
Par exemple.
Il faut faire quelque chose.
Ouais. Ça, si tu veux, c'est une étape d'après par rapport à si on dit voilà, maintenant on veut faire une forêt. Parce que là, on a juste émis l'idée, on l'a dessinée, on a dit bon, ça pourrait être sympa, ça pourrait avoir des. Mais après, qu'est-ce qu'on veut faire? Enfin, une étape d'affinage, on va descendre un peu plus précisément dans le design quoi. Donc qu'est-ce qu'on veut faire? Est-ce qu'on veut protéger nos arbres et puis sachant qu'ils ont des épines aussi quand même, les trucs, alors, les moutons ça peut-être tenir. Hein.
Le frêne il a pas d'épines.
Non, je pensais au robinier. Je pensais au robinier. Les robiniers?
C'est pareil, bon. Faire une mare, ça veut dire venir avec une pelletée. Prendre taper la mare à la main.
Ouais, ah bah oui. Ouais.
C'est feignant un peu quand même. C'est une question de temps parce
qu'on on redémarre? Allez. Ouais, et.
Oui.
Ah mais ils écoutent pas là.
Pardon.
Ils n'écoutent pas qu'on dit rien. Oui, j'ai oublié ton prénom, excuse-moi. Aurélien. À demain alors. Ouais, ce qu'il disait, bon, on pourrait encore affiner, mais là c'est un peu le bazar, il faudrait refaire un papier. Parce que, ouais, ça... Mais c'est au niveau. Il me disait, mais comment on va faire planter une forêt, il va y avoir l'herbe qui va pousser, ça va rester en friche, enfin ça va avoir l'air d'une friche au départ, etc. Comment on fait? Ou alors, est-ce qu'on protège les arbres et on met des moutons, etc. Bon. Oui, je dirais ça, c'est une deuxième étape du design où on va aller affiner, dire maintenant on a décidé, parce que là on vient d'émettre l'idée, on veut mettre une forêt, bon, on dit qu'on veut mettre une forêt.
Laurent, s'il te plaît, pardon. On vient à la même heure demain matin 9h30 ou est-ce qu'on vient plus tôt?
Qu'est-ce que vous en pensez tous?
De toute façon,
ça ne change rien. Pas avant 9h30? Bon, bah 9h30. Ouais, allez, ouais, ok. Demain matin alors. Donc après c'est une deuxième étape de dire voilà, maintenant on a décidé de faire ça, comment est-ce qu'on va le faire et puis comment on va est-ce qu'on protège, on met des moutons, est-ce qu'on laisse donc on peut l'affiner le design, on peut l'affiner et dans le temps, mettre des étapes intermédiaires dans le temps et dans la précision de la définition du design lui-même quoi. Donc c'est infini quoi, si on veut cogiter là-dessus pendant longtemps on peut. C'est pas le but non plus, puisqu'on veut y mettre le moins d'énergie possible en entrée pour le maximum d'énergie en sortie. Donc, en revenant sur la forêt, la forêt c'est un puits de carbone aussi. Donc planter une forêt, c'est un acte, c'est bon pour la planète, quoi, au final. T'as du droit à polluer après.
C'est pour ça qu'on a mis un bardage en bois, du champ,
voilà, c'est ça. Non mais dans une approche, donc dans le système Terre, de dire ce qu'on va faire chez nous, ben ça va contribuer en tout cas à ne pas aggraver la situation. Il y a d'ailleurs un groupe, une association, je ne sais pas comment ils sont faits, qui s'appelle... Comment ?
Ne pas nuire, c'est ça ?
Oui, ouais, aussi. Ouais. Enfin, c'est d'essayer de rester écologique sur un niveau plus global, quoi, si tu veux. C'est encore le système d'être fractal, quoi. Il y a un groupe qui s'appelle WeForest. Nous reforestons, quoi, en bon français. Et c'est des gens qui ont fait des calculs en disant si on faisait de l'agroforesterie sur 50% des terres arables mondiales, bon, ça fait un peu beaucoup, mais bon, c'est possible quoi. On arriverait à contrebalancer par l'effet d'évaporation lié aux arbres, à contrebalancer l'effet du réchauffement climatique. Donc ça ne veut pas dire reprendre tout le CO2 qui a été mis. Mais ça veut dire en reprendre sur la durée parce que les arbres ils vont avoir cette action et en même temps ils vont évaporer tellement que ça va faire comme un effet clim quoi, un peu ce même genre d'effet. Ouais, WeForest. Donc voilà, si on veut avoir un impact un petit peu plus global, les arbres c'est bien. Bonne chose. Alors après, qu'est-ce qu'on pourrait regarder? Oui, si, ce que je ne vous ai pas dit, maintenant, pas trop montré, au niveau des designs, il y a des... ça peut être vrai pour les allées, ça peut être vrai pour les haies ou pour pas mal de choses. Il y a des designs un peu particuliers du genre, ce qu'on appelle le design en trou de serrure. Quelque chose comme ça, et là on a une partie cultivable qui est ici, ça peut être une bande ou autre chose, et avec des diverses trous de serrure. Alors c'est joli, bon, c'est mal fait, mais bon. C'est joli, ça permet d'accéder un peu à toutes les parties, Et ça a une, bon, c'est un look un petit peu particulier, sympa.
C'est bon, c'est une haie avec des alvéoles, c'est ça ?
Là, c'est pas une haie, là c'est cultivable.
C'est vu de haut.
Là, c'est des plantes.
C'est vu de haut.
C'est vu du dessus. Hein. Bon, là, c'est une plante, c'est des plantes pérennes ou pas, enfin voilà, à cueillir ou à faire pousser. Et puis on a accès.
Ah, c'est un chemin.
Voilà, c'est un petit passage qui permet d'accéder sans marcher sur le sol. Parce qu'on verra plus tard que. Enfin, on verra le sol demain, quoi.
Et on pourrait faire ce système-là, par exemple, on pourrait descendre avec un chemin central et puis faire des trous de serrure de chaque côté du chemin.
Voilà, par exemple, voilà, ça serait. Ouais,
dans l'axe de l'escalier.
Ça serait extra, oui. Ouais.
Quel est l'intérêt ?
Ben, l'intérêt, c'est d'accéder à. Bon, là, ils sont un peu proches, comme je les ai dessinés. Hein. Ils vont plutôt prendre ici. C'est d'accéder partout sans marcher sur la terre qu'on cultive.
Ouais.
Parce que à chaque fois qu'on marche, ça dépend un peu comment. C'est un design. Il y a plein de façons de le faire. Ça c'est vraiment un exemple que je donne. Moi jusqu'à maintenant je l'ai pas mis en œuvre parce que j'ai pas trouvé l'intérêt. Mais c'est un intérêt didactique en tout cas. Quoi. C'est intéressant d'avoir ça en tête parce qu'on peut se dire ce genre de motif. Pattern en bon français, on peut aussi l'utiliser pour la haie par exemple. Si ici on a un grillage et puis qu'on ne veut pas le bouger, a priori c'est le cas, et puis on veut mettre une haie autour et on a envie de faire une forme qui est quand même jolie, qui n'est pas un truc hyper rectiligne, et ben c'est possible d'adopter un motif, je sais pas, genre planter de la haie comme ça en épi par exemple. Voilà.
Il va se faire un plaisir.
Et il est là, grand-père.
Il peut passer.
Ça, c'est après, c'est le côté esthétique, mais en même temps, ça peut rallonger la surface de haie si on désire en avoir beaucoup, avec effectivement peut-être des petits fruits encore dedans, ou contre, couper les vents un peu plus. Bon, ça, c'est des idées. Oui, ça fait des petites zones, des petits recoins à chaque fois. Et puis ça fait pas le gros truc droit, ça change un peu en gardant l'existant qui lui est droit. Donc même là, enfin là on touche pas. Et après pour les poules, vous avez prévu quoi ? Vous avez prévu un. Elles dorment là-dedans, mais ouais. Et vous avez prévu un enclos quelque part extérieur ou vous les laissez en libre parcours sur tout ça.
Après, on peut cloisonner comme ça. L'herbe a le temps de pousser à un endroit.
Le temps qu'elle ravale. C'est le mot.
Ou alors on le laisse sur 1200 mètres carrés, ça devrait déjà
les occuper un an. Si vous avez pas beaucoup de poules.
Si elles arrivent à faire ça, vous les mettez sur les 6000 quand les arbres auront un peu poussé.
Oui, parce que de toute façon, elles reviennent au poulailler. Après, c'est la protection pour.
Mais les renards, oui, ça craint. Non,
les fruits,
ils ne
reviennent pas dans les massifs des autres voisins.
L'idée aussi, c'est de trouver l'emplacement aussi du tas de fumier et de la zone de compost, qui nous servira ensuite à amender la zone de jardinage. Donc, ça va être une évacuation par la porte de l'écurie.
Oui.
Je sais pas où est-ce que
tu as
imaginé faire le tas
de
poulailler.
Moi j'ai pas imaginé, mais ici tu as dit que la terre elle était pas bonne.
Ouais.
Moi j'améliorerais la terre dans cette zone là parce que tu vas pouvoir rapprocher tes zones au fil du temps. Donc ça peut être un design intermédiaire. Pendant un temps on est là, et puis au bout d'un moment on se rapproche de notre cuisine. Parce qu'on a marre de descendre dans leur jardin.
Non, moi je parle d'une zone de compostage. Ensuite, on prend ce compost et on le ramène dans les zones de jardinage.
Ouais.
Et
après.
La zone de compostage en attente.
Moi, je suis pas trop compost. Enfin, compostage en termes composter, mettre voilà, mettre des tontes, remuer tous les x temps. Voilà, je suis plus compostage à froid en place quoi. Voilà. Ouais. Tu mets, si c'est un truc qui est trop, trop acide, trop azoté, tu mets un peu de sciure avant, un peu de sciure après. Et puis, tu laisses se composter là sur le sol. Les plantes, elles en profitent tout de suite. Enfin, voilà, moi, personnellement, c'est... Puis j'ai vu des terrains comme ça qui sont extraordinaires.
C'est des vivaces, parce qu'évidemment, là où tu composes, tu peux pas faire dessus.
Oui, ben là, pour l'instant...
Tu peux faire ça qu'au pied de plantes qui sont déjà établies.
Qui sont établies, oui, oui. Ouais, ouais. Ou mettre en bordure, ben, un petit peu comme on fait dans ce qui est dans le bouquin, là. C'est-à-dire, on ramène de la terre là où on met la plante, et autour, on a du fumier de peu importe. Bon, une poule, c'est vrai que c'est violent quand même. Hein. Avec de la sciure, ça va rien faire. Hein.
Okay.
Avec de la sciure, à tester, mais ne mettez pas une tonne tout de suite, mais mettez progressif.
Tu mets de la sciure quand tu mets des déchets frais
Si c'est des trucs qui puent comme ça, tu, en mettant de la sciure, puis tu rééquilibres le rapport azote. Azote-carbone. Parce que quand tu mets beaucoup d'azote, c'est ça qui sent en fait. Tous les produits azotés, ils sentent fort. Quoi. Donc le carbone, lui, il absorbe. Donc le mix des deux, tu as quelque chose. Et ça peut être aussi du, ce qu'on disait tout à l'heure, du charbon de bois. Donc là, tu as encore un cran au-dessus, tu crées un puits de carbone avec ton jardin. C'est pas les cendres, hein.
Ça, on sait jamais quoi en faire.
C'est pas les cendres, hein, c'est le charbon. Il y en a très peu du charbon dans les cendres en général. Ouais, ouais. Donc, non, le charbon de bois, pour l'instant, j'ai pas de source fiable, mais ça va venir, je pense. J'en suis à mon quatrième essai, c'est de gazification qui marche pas. Ça arrive. Non, du gaz de bois.
C'est quoi comme gaz d'ailleurs?
Ben, c'est exactement, c'est le gaz des gazogènes, exactement ça. Mais ça doit être plus facile proportionnellement à le faire dans un gazogène, parce qu'on a le moteur qui tire, et donc il attise quand même un peu, et en fait le dosage d'oxygène, il est, enfin moi j'ai pas trouvé encore le bon dosage. Mais tiens, c'est pas bête, je vais essayer de mettre une vanne sur le truc pour... ouais, c'est ça. C'est ça. Et le résidu, sous-produit, c'est du charbon. Quoi.
Et c'est pour faire quoi alors? Parce que, enfin, si tu pars d'un morceau de bois.
Tu pars de bois, bah, c'est plutôt deux morceaux de bois que d'un morceau de bois, plutôt pour avoir vraiment une flamme. Et tu le consumes comme ceux qui font du charbon de bois, c'est-à-dire avec une chaleur pas trop élevée, quoi. Enfin, pas trop d'oxygène en fait. Du coup, ça se consume, ça brûle pas vraiment. Et le gaz qui en sort, il est combustible, lui. Donc, tu le fais brûler, quoi. Tu peux te chauffer avec ça, quoi.
En direct, ouais.
Ou tu peux l'envoyer dans un moteur, en direct aussi. Dans les gaz, c'est pendant la guerre, hein, qu'ils ont fait ça. Hein. Il n'y avait plus de carburant, ils sont débrouillés, ils ont fait des bidouilles pour envoyer des gaz comme ça dans les moteurs. La combustion très incomplète du bois.
Très incomplète du bois. Ils n'utilisaient pas la chaleur générée par la combustion du bois.
Non.
C'est pas une machine à vapeur.
Non, c'est un moteur.
Et le gaz était brûlé
au cube sur le côté.
Le gaz, il était brûlé, le gaz de bois.
Il était brûlé dans le moteur.
Il était brûlé dans le moteur.
Le problème, c'est qu'il y a des grosses aujourd'hui. Il fallait le temps que ça chauffe.
Oui. C'est plus un système en hauteur comme ça en général avec un cône en bas.
Non, c'était
ça, ce que les gros trucs là, ça me fait plutôt penser aux voitures à hydrogène ou aux choses comme ça, mais le gaz de
le gazogène, il faut quand même une espèce de bouteille.
Moi, les modèles que j'ai vus, ils sont verticaux, c'est-à-dire qu'on charge le bois par en haut, puis il y a un cône et l'aspiration d'air se fait par le bas. Et puis c'est dans le moteur, quoi. Et puis on allume.
Et puis les aménagements de fosses.
sceptique, ça t'est déjà arrivé de tomber sur ce problème-là?
Ben.
C'est vraiment
c'est la verrue. Ouais. Ben, le problème, c'est qu'il est déjà là. Il est déjà là, c'est quand même un peu dommage de tout enlever puis faire autre chose, quoi.
Non,
on est d'accord.
C'est comme la toile,
c'est mettre
trop tard.
Non, mais enfin, bon, utiliser des toilettes sèches déjà, ça permet déjà de limiter l'eau qui va dedans et la pollution de cette eau. Donc après, du coup, le traitement qui est fait dedans. Ouais.
Je suis sûr qu'on pourrait prendre le lisier qui est dans la fosse, dans le jardin. On ne le fera pas, mais non.
Ouais.
Non, mais surtout comment aménager par-dessus ces couvercles en
bas. Ah, par-dessus, ouais.
J'ai pas bien compris la question. Faire un jardin suspendu par-dessus la fosse.
Ah,
ouais. Ça ne sera pas par-dessus des couvercles en béton. Ça sera sur le lit de 25 mètres carrés.
Mais les couvercles, quand la pelouse elle repousse, les couvercles en béton ça fait ça, quand t'en as deux, trois, quatre, il y en a,
ouais,
et tu peux rien faire
dessus.
Oui, c'est ça.
Ouais.
Tu mets des bacs.
Ouais. Ah, si c'est pas grand, tu peux bien mettre un bac qui est déménageable, tu le poses même sur le couvercle. Donc, ça cache.
C'est ça, c'est
hein.
C'est pas
Ouais, bah, tous les 2-3 ans, s'il faut décharger deux bacs, ça se fait, quoi.
Non, mais surtout qu'on arrive à les masquer, quoi.
Ah, hein, ouais. Ouais, non,
mais, c'est pas de la permaculture, c'est du paysage.
C'est du... Ouais, un peu, mais bon.
Oui, mais des concepts qui servent. On va faire n'importe quoi. Les petits fruitiers, hein. les petits fruits rouges autour, ça fait plus buisson, je sais pas.
Caché, hein.
Ouais. C'est vrai que tout le tour. Après, faut pas que les racines aillent trop dedans, quoi, parce que ça peut être un peu destructeur. Je sais pas, il est garanti votre.
C'est un lit de sable en granit, du sable lavé, quoi, et sur 80 cm d'épais. Gros sable au début, puis plus tu descends, plus le sable est fin pour filtrer l'eau.
Ouais. Mais après, il y a les.
Non, mais c'est pas un éponge en fait. C'est
un éponge. Ça
s'appelle un éponge quand même.
Je ne suis pas spécialiste de l'épandage. Moi. Je peux plus facilement te parler de phytoépuration que d'autres choses. Donc, toilettes sèches.
Sinon,
bah ouais, ça peut aussi. Ça peut aussi. C'est vrai que là, si tu peux poser des bacs, ton jardin en carré, il a vraiment sa place là, quoi. Hein. Si ça supporte le poids, ça supporte. Ou alors faire des jardins en carré petits, de dimension petite. C'est vraiment. Dans cette zone là, tu veux dire?
Ouais.
Bah, ici, moi, je serais pas trop en association, étant donné que ça va être plus une zone dégagée, jardin, poule, etc. J'en mettrais, mais je mettrais pas trop dense, quoi. Je mettrais un fruitier par ici, un fruitier par là, puisque si tu en as déjà pas mal là, des arbres et notamment des fruitiers à une certaine hauteur, à certains endroits. Là, j'en mettrais, bon, histoire de freiner le vent, de faire un peu d'ombre pour quand on a envie d'être à l'ombre et pas trop loin de la maison. Mais, ouais. Pour les poules, ouais. Et pour les feuilles qui tombent, pour, ouais, enfin, y a plein d'intérêts.
Oui, parce que tu n'auras pas les mêmes fruits quand même dans
Alors,
les arbres fruitiers tels qu'on les a dans les vergers,
en permaculture, souvent, alors ça, je ne sais pas encore si c'est un biais ou pas, je te le dirai dans quelques années, à mon avis, c'est un biais lié au climat dans lequel ça a été développé, mais on densifie la végétation au maximum. Donc moi j'ai vu des plantations un peu de ce type-là, mais c'était plus droit, c'était pas comme une parabole comme ça. Il y avait un fruitier tous les 2 mètres.
Ils étaient tous taillés à mort et puis.
Ils n'étaient pas taillés parce qu'ils étaient jeunes, donc le temps que ça pousse.
Ils sont limités par la
densification. Ils se limitent d'eux-mêmes et puis le gars il voulait pas les cueillir. Ils sont jeunes là, hein, donc il les a mis tous les 2 mètres. Donc c'est pour ça que je te dirai dans quelques années si ça a bien réussi. Je sais que dans le sud ils font ça, dans les pays du sud, mais dans les pays d'ici, voilà quoi.
C'est des formes d'anisant de toute façon.
Ça vient en concurrence au niveau du soleil, tu veux dire?
En concurrence au départ, puis après ils choisissent.
Au départ, ils sont suffisamment loin, et puis après.
Bon. Les branches n'est pas trop sur le côté pour les obliger à monter.
C'est un risque. Je sais pas ce que la pensée qui était derrière, donc je sais pas quel était le but final quoi. Donc je peux pas dire après.
Savoir que ces formes-là, il faut tailler tout le temps, c'est un monstre. Hein. C'est pas comme les arbres de Auger où on
Un arbre, si tu ne tailles pas un minimum, il va moins de données tout le temps. Pour déclencher la fructification, il faut te contraindre un peu. Quoi.
Il y a des arbres qu'on taille jamais, enfin les fruits annuels, aussi les pêchers, oui. Mais... Ouais, on ne taille pas tout le temps.
Moi je taille tous les 2 ans. Quoi.
Quand même.
Sinon, soit ça devient inaccessible, les arbres montent. Tout dépend de la vigueur de l'arbre et de la fertilité du terrain. Et le problème, c'est de limiter la quantité de fruits, parce qu'un arbre que tu tailles pas, il va faire au bout d'un moment, tu vas avoir beaucoup de fruits, et tu n'arriveras jamais à les faire mûrir correctement, tu en auras trop par rapport au potentiel de l'arbre. Parce que l'arbre, il s'en fiche que son fruit il soit plein de sucre ou pas. C'est pas son objectif de faire un fruit très très mûr. Lui, il veut faire un maximum de graines pour pouvoir s'en reproduire. Quoi. Donc un maximum de fruits, mais si tu veux que ça soit bon, il faut pas qu'il y en ait trop.
Est-ce que c'est bon? Je crois que c'était des années où ils vont donner énormément, tous les 2-3 ans, non?
Ben, ça dépend de la météo, mais... Puis après, pour faciliter la cueillette, parce que si t'as des arbres...
Oui. Il y a la cueillette...
je sais, j'ai un cerisier là, c'est
ça qui est
optimiste.
Ouais,
C'est moyen sympa pour l'arbre, c'est ça que tu veux dire ou...
Ah non, ce que je veux dire, c'est que c'est comme ça que l'homme a réussi à s'approprier des espèces.
Après, on peut aussi tailler quand il y a les fruits. Donc, ce qui permet de cueillir par terre et les branches hautes sur les cerisiers, ça marche super bien, quoi.
Mais le problème de tailler quand il y a encore les feuilles et les fruits, c'est que après la cueillette des fruits, tu as une mise en réserve, une redescente de la sève dans les parties racinaires. Et après, tu as les feuilles qui tombent. Si tu coupes les branches au moment de la cueillette des fruits qui a encore les feuilles, ça va être une perte énergétique pour l'arbre.
Pour l'arbre.
Très importante. Il n'y a pas du tout de mise en réserve, il n'y a rien du tout. Il saigne alors qu'il est
en pleine pousse. Ouais. Ouais.
Ouais. Après, ça peut être une solution pour calmer un arbre qui a trop de vigueur.
Ouais. Moi je trouve ça. Ouais. Non, mais c'est vrai.
Bah, c'est
tu
le tailles quand il est en pleine végétation et il ne comprend plus rien.
Et tu fais du BRF avec le rameau que t'as coupé. Les Canadiens font beaucoup ça, de couper comme ça dans ces périodes-là. Alors, je ne sais pas s'il y a une histoire de climat, là, c'est pareil, il faut affiner un peu, est-ce que c'est plus... Parce que en France, on taille plus tard, et puis eux, ils taillent, voilà, aux fruits. Ils taillent en été.
L'après-hiver, il est tellement froid,
je ne peux
pas...
Canada. Donc, bon.
Ça dépend des arbres.
Ouais, quand il y a le fruit.
Il y a un noyau.
Ouais, ouais. Ouais, mais même les autres.
Même les
c'est quand il y a les fruits dessus, ils taillent à ce moment-là, quoi. Donc du coup, bon, les cerises, c'est sûr. Je sais que tous les arbres en été, mais je les vois pas taillés avant de ramasser les fruits, donc je vois que ça, quoi. Je vois que à ce moment-là. Ce qu'on pourrait ajouter par rapport au design ici, c'est que là, bah, comme la cuisine est au nord, la maison, bon, elle n'est pas trop bien orientée du départ. C'est vrai que si elle était orientée dans l'autre sens, si le sud était là, une véranda ici, ça serait génial. Là, bon, voilà, c'est pas trop, ça sert pas à grand chose.
Quand l'été, ça
arrivera,
parce qu'il fait frais.
Après, ce qu'il pourrait y avoir pour ramener de la chaleur, c'est une serre dans le prolongement sur lesquels on vienne mettre une bouche d'aération et récupérer la chaleur, parce qu'on est en pente, dans le bon sens. Bon, à voir. Du coup, il serait juste sur les... mais bon, une serre, c'est quand même aussi pour faire pousser des choses, donc là-dessus, ce serait peut-être pas génial, mais bon... À voir. Ça peut être aussi une possibilité, c'est-à-dire de se dégager de l'ombre de la maison, quoi, pour réussir à attraper du soleil ailleurs, à attraper de la chaleur ailleurs, qui va venir pratiquement naturellement, sans moteur, sans rien du tout pour la pousser, quoi. Ça peut être une possibilité. Bon, à quelle heure il est là ? Il est peut-être bientôt là, non ? 6 heures. Ok. Bon, donc on se retrouve demain à 9h30 ici. Demain. Je vais te le dire. Ben demain, ça va être plus les techniques. Donc, le sol, avec différents types de sol, différentes manières de traiter le sol. La gestion de l'eau dans les climats tempérés. Jardinage, les plantes herbacées, plantes vivaces, pérennes, les lianes. Les arbres, bon, on a déjà effleuré un peu ces sujets-là, mais voilà. Les animaux, les limaces, c'est important. L'habitation, avec comme sous sujet la partie abri, enfin s'abriter simplement. La chaleur, l'eau chaude, la lumière, l'eau. L'électricité, toilette, le froid, sous étapes, et puis ça sera bien déjà. Et puis sinon, sinon on va faire un peu de baguette de sourcier. En activité extérieure, ouais, baguette de sourcier, peut-être avant de manger ou après manger, je sais pas. Expérimentation un peu, je sais pas si vous avez déjà fait. Et puis, qu'est-ce que j'avais d'autre ? On va regarder un petit peu le terrain aussi, le jardin ici, les plantes qui peuvent être sauvages ou pas ici, et puis peut-être dans le chemin qui est un peu plus loin là-bas. Donc, C'est tout, c'est déjà pas mal. S'il nous reste un peu de temps, on reprendra peut-être un cadre design à refaire pour s'habituer un petit peu à ça.
Au revoir.
Ah, tu sais qu'il y a des belles humaines comme ça.
Ah bon, elle vient vous chercher?
Non.
Ah, demain? Ah, ok. D'accord. Je sais pas, faut voir avec le Laïtou, je sais pas trop.
C'est 10, c'est le grossissement. 42, c'est le.
C'est le
diamètre de sortie, ça va donner la lumière.
Avec Martin, on dira ce qu'elle en a.
10, 42 en prisme droit, vous me donnez plus de lumière, et des 10, 52 en prisme décalé. Et puis après, il y a la qualité.
Allemand.
À demain.
La qualité des verres, tu prends ce genre de choses-là en Leica, tu as un angle comme ça à 100 mètres. Ouais. Quoi. Alors que ça va donner.
Ouais. Voilà. Je peux jeter un œil?
Oui. Par contre, moi j'ai enlevé ça parce que comme j'ai des lunettes.
Ah oui.
Ah oui.
Je les ai customisées.
Tunées.
Oui. Ça, c'est possible à faire. Hein.
Oui, enfin, je peux tout faire.
C'est vrai qu'il y a plus de lumière sans prisme.
Oui.
C'est assez hallucinant.
En fait, la lumière là-dedans, elle fait ça. Elle tourne. Oui. C'est pour ça que tu as un angle.
Comment c'est possible?
C'est un problème de prisme.
Mais tu n'as pas de prisme là?
Si.
Si, tu as des prismes quand même.
Peut-être
sur la tablette de chocolat.
Dans un prisme décalé, la